Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Au 96.9, voici Ventre Chat.
Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous en ce dimanche 28 janvier 2024? J'espère que vous allez bien parce que nous, ici en studio, nous sommes en pleine forme. Je vous dis, on a de l'énergie. Vous avez vu, hein, d'ailleurs, d'après moi, on a pogné un bout d'énergie de la gang d'avant, là. Ça a l'air qu'on est supposé d'amener un vent de fraîcheur en studio pour calmer tout ça. On devrait y arriver. D'habitude, on est bon. D'habitude, on est même excellent. Bienvenue à l'émission aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver. On va parler avec Éric et Brigitte aujourd'hui de Bottes et Vélos. On va parler de leur expérience pèlerine pour sortir de l'hiver. Ils ont fait quelque chose de pas mal capoté, j'ose dire, pour utiliser des termes un peu plus hollés. On va également... Je sais pas si... Je pense que Frédéric il est tombé sa tête, lui aussi. Il veut qu'on fasse plaisir à notre préparateur d'impôts. En tout cas, je sais bien que le mois de l'amour s'en vient, là, mais il me semble qu'il y a des limites. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que tu as à nous dire là-dessus, Frédéric. On va également recevoir, j'ai perdu son nom, je vais le retrouver tantôt, la station urbaine sympathique. C'est dans le cadre des découvertes lévisiennes, des organismes lévisiens commandités par Desjardins. Donc, je vais recevoir cette station urbaine sympathique-là. Ça a l'air qu'elle n'est pas encore assez connue, mais en tout cas, on verra ça tantôt. Et j'espère qu'à la fin, il va rester du temps, parce que je veux vous montrer, je veux vous parler de sauver du temps sans vous oublier, parce que je trouve ça important. Donc, direct comme ça, je vous envoie le petit avertissement habituel, hein, parce que c'est comme ça à CJMD, c'est surtout comme ça dans Vent de fraîcheur, je prône ça, je veux qu'on regarde plus loin que le bout de notre nez.
Des opinions, The Real Talk, du gros fun.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission « Vent de fraîcheur ».
On passe en direct sur la page Facebook de Vent de fraîcheur. Profitez-en pour faire un petit like en passant. On vous salue tout le monde sur Facebook. J'espère que vous allez bien, vous autres aussi. Ce matin, je reçois Brigitte Arouni et Éric Laliberté pour nous parler de Porto Rico, une expérience pèlerine pour sortir de l'hiver. J'ai deux crinqués, j'ai envie de dire ça comme ça, deux passionnés avec nous autres ici. Probablement que vous les suivez sur les réseaux sociaux. Sinon, allez voir la page Facebook Bottes et Vélos. Êtes-vous sur les autres réseaux sociaux, Éric et Brigitte?
Oui, ben on est sur anciennement Twitter, maintenant X. Ouais. Et sur Instagram aussi.
OK. Fait qu'il faudrait que je vous suive là, moi aussi, moi-même. Hein, le chapeau me fait, là. Je pense qu'il faut que j'ajoute ça.
On est plus actifs sur Facebook, mais bon, oui, il y a de la diffusion aussi sur les autres.
Là. J'avoue, moi aussi, que je suis plus active sur Facebook. Et là, vous êtes allé faire une expérimentation, une expérience qui sort de l'ordinaire.
Mmh. Ben oui, ben quand arrive le froid, c'est toujours plaisant, des fois, de penser à un peu de chaleur. Il y en a qui aiment moins l'hiver que d'autres. Je suis pas un gros fanatique de l'hiver. J'aime bien les belles journées d'hiver. Mais à un moment donné, j'aime ça le couper en quelque part puis trouver quelque chose qui permette d'aller se réchauffer un petit peu. Au mois de décembre, on est allé expérimenter un chemin du côté de Porto Rico.
On aime ça couper l'hiver, puis à chaque année, on fait un voyage exploratoire aussi pour offrir une palette variée aux gens qui viennent marcher avec nous. Et il y avait un groupe qui avait déjà exploré, des Portoricains qui avaient défriché un chemin qui s'appelle le Camino del Yunque. Alors, on s'est dit, mais pourquoi pas? Parce que Porto Rico, vu d'ici, avait quand même beaucoup d'avantages. Ça faisait plusieurs fois qu'on voulait faire un voyage dans ce que les Québécois appellent le sud, au lieu de traverser pour aller jusqu'en Europe. Et Porto Rico, sur le site du gouvernement du Canada, fait partie des pays où il y a peu d'avertissements.
C'est vraiment
sécuritaire.
Bien,
c'est un pays qui fait partie des États. C'est un État dépendance des États-Unis. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à y aller avec un groupe, évidemment. Donc, on a décidé d'aller explorer le fameux Camino del Yunque.
Oui, et en même temps, je pense que ça répondait à une demande de votre clientèle, hein? On aimerait ça sortir de chez nous quand il fait frais.
C'est ça. Ben, il y a toujours des gens qui nous disent, on aimerait ça aller faire des marches comme vous faites l'été. Nous, l'été, c'est un temps fort avec notre travail. On peut pas s'absenter de la même manière. On peut pas quitter. On aimerait bien avoir quelque chose qui nous permet de sortir l'hiver aussi. Parce que c'est pas évident. C'est toujours possible de s'organiser un chemin de pèlerinage, vivre une expérience pèlerine en hiver sur nos sentiers de neige au Québec. Mais ça demande de la préparation. C'est des journées plus courtes. Donc, il y a toute une manière de le penser. Ça peut être très agréable. Il y en a qui le font, mais bon, c'est ça. Nous, on avait le goût d'expérimenter autre chose, de sortir. Moi, je ne me lancerais pas dans un chemin au Québec en hiver. Ça m'intéresse moins.
Non, surtout qu'il y a beaucoup de services qui peuvent être fermés, autant hébergement que restaurant.
C'est un peu
embêtant. Donc, oui. Donc, on est allé dans le sud.
Ça a été une aventure. On est allé voir ce qui se fait du côté de Porto Rico, parce que Porto Rico, comme Brigitte le disait, c'est un groupe qui a organisé, qui a mis sur pied un chemin inspiré par leur expérience de Compostelle.
Okay.
Ils sont revenus chez eux puis ont dit, il faut faire ça chez nous. Ça fait déjà presque 15 ans, douzaine d'années qu'ils ont parti le projet, qu'ils ont mis ça sur pied. Ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Okay? Il n'est pas aussi bien structuré que celui qu'un chemin de Compostelle. Alors, il faut vraiment bien se préparer si on veut aller le vivre. Mais vie sur place, c'est très, très bien.
Là. Moi, je tiens à préciser, on s'appelle Bottes et Vélo. Le pèlerin dans tous ses états. Et alors, dans tous ses états, Porto Rico, on l'a vécu.
Il a pris son sens.
Oui. Parce que le chemin est pas vraiment balisé. Il faut vraiment le suivre sur une carte. Mm-hmm. Et il est pas fait sous un modèle de Compostelle. C'est pas une boucle, c'est pas une ligne droite.
Oui, c'est étrange comment ils l'ont pensé, parce que c'est deux sections qui pointent vers un bout de l'île. Mm. Fait qu'il y a une diagonale d'un côté, une diagonale de l'autre. Fait que puis c'est un 7 jours de marche environ, le Camino del Yunque. Donc, 3-4 jours d'un côté, 3-4 jours de l'autre. Puis on finit au même endroit les deux sections. Fait que c'est une autre manière. Fait que on est vraiment dans l'exercice pèlerin en même temps.
Oui, puis là,
se laisser déranger par nos manières de faire. Puis dire, c'est pas de même d'habitude. Ben, ouais, c'est ça. Ça se peut que ce soit autrement.
Et là, je suis en train de me dire, on est rentré dans le vif du sujet. Si on a des nouveaux auditeurs à matin, là, peut-être qu'on est en train de les perdre. Mmh. Parce que peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi l'exercice pèlerin.
Oui, bien, on peut prendre le temps, d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est l'exercice pèlerin? On se lance dans quoi quand on part dans un voyage qu'on va dire pèlerin? D'abord, c'est ça, c'est du voyage, c'est de l'ordre du voyage, le pèlerinage. Le pèlerinage a vraiment évolué au cours des dernières, je dirais, des 20 dernières années. Ça a vraiment changé depuis, on peut le voir avec l'engouement pour Compostelle. Mmh. Mais on est sorti des structures religieuses. Fait que quand on dit pèlerinage, on l'entend à plein d'endroits aujourd'hui. Pour dire un déplacement, il y a quelque chose qui est en train de changer, je suis appelé à bouger, puis ça vient m'interroger dans mes manières de faire. Donc, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que c'est une expérience de voyage, de rencontre, de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, un autre milieu, puis de goûter et sentir cette expérience-là, puis de se laisser surprendre, se laisser déranger, se laisser troubler dans nos habitudes. Puis il y a une part de remise en question à travers cette rencontre-là qui amène à revoir son quotidien, sa manière de vivre.
C'est aller à la rencontre, j'ai le goût de dire, d'un autrement. Donc, voyager autrement, se loger autrement, se nourrir autrement, puis découvrir des manières de faire qui sont autres pour s'ouvrir, pour remettre en question nos habitudes personnelles. Donc, aller à la rencontre de cet autrement-là. Pèleriner, c'est ça. C'est être dans l'accueil de la différence, quelle qu'elle soit, quelque forme qu'elle prenne sur le chemin.
Est-ce qu'on peut dire que c'est sortir de notre zone de confort, de nos pantoufles?
Ça nous sort de notre zone de connu, souvent. Parce que l'inconnu peut, pareil, être confortable, hein, parce que on s'entend-tu que voyager dans le sud, sur une plage remplie de cocotiers, c'est pas du connu, mais c'est confortable.
Oui, on va se le dire. Hein?
Oui, tout à fait.
J'aime ce point de vue intéressant.
Fait que, dans ce sens-là, Porto Rico a été vraiment une expérience où, oui, on n'est pas nécessairement sorti de notre zone de confort, mais il y a eu du différent, beaucoup de différent.
Ah oui, beaucoup.
Ne serait-ce que sur la nourriture, on a découvert beaucoup les plats portoricains, différents types de plats portoricains, mais aussi sur la manière, moi, c'est beaucoup la manière de vivre le chemin.
Ah oui.
On était vraiment dans autre chose. Des fois, on se retrouvait sur des routes, là, c'était comme marcher sur Kennedy ici, là.
Le chemin qu'ils avaient fait nous faisait passer sur des rues très, 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 très passantes à haute vitesse. Mais il reste que les Portoricains sont ultra courtois, ultra, ça n'a aucun bon sens comment que je me suis jamais sentie en danger, jamais. Ils sont extrêmement prévenants.
Oui. Puis même qu'il y avait des gens qui s'arrêtaient régulièrement en nous voyant marcher, puis nous demandaient « Est-ce que vous voulez un lift?
» OK! Parce que personne marche là-bas.
Oui, il y a très peu de gens qui marchent.
Très peu de gens à vélo aussi.
Oui.
Alors,
pourtant, ça se développe, le vélo. Oui. En Porto Rico, ils ont de plus en plus de pistes cyclables et ça se développe de plus en plus. Mais on parle aussi, c'est le Camino del Yunque. Le Camino del Yunque, c'est qui fait le tour de la rainforest, la forêt tropicale del Yunque. Et le sentier va, le chemin, parce que ça n'a jamais été vraiment un sentier. Le chemin va dans la montagne.
Bon, attends un peu là. La différence entre un sentier et un chemin, Eric, c'est quoi là, pour ceux qui ne connaissent pas?
Ouais, ben, t'es sur une route d'asphalte où les autos passent.
Okay.
Le sentier, habituellement, il n'y a pas d'auto.
Il est dans la forêt, il n'y a pas d'auto, il est plus petit aussi. OK.
Oui, ben ce ne sera pas le petit sentier qu'on va connaître dans nos parcs nationaux. Souvent, ici, ça peut être un sentier. Je dis des fois un sentier, ça peut être une route comme on a d'un champ ici, là, un chemin de terre, là, tout simplement.
Okay.
Mais la différence que je fais, moi, c'est qu'il n'y aura pas de voiture qui va passer par là. Fait que là, on se retrouvait toujours sur des chemins.
C'est toujours des chemins où
avec
les autos peuvent aussi passer.
Partout où on était. Mais en même temps, on a circulé dans des... Puis nous, on l'a fait à vélo aussi. Il y a ça qu'il faut dire. Ça a été exigeant parce que c'est un fichu dénivelé.
Oui.
On avait du 700 mètres de dénivelé régulièrement et on s'est fait surprendre avec les vélos, là, pousser le vélo pendant 5 km de temps en montant. Puis les premiers jours avec la température, il faut se donner un temps pour s'acclimater. Si on s'en va vers le sud-sud comme ça, du 27-28, quand on part du 10 ou du 7-8 degrés, ici on était au début décembre quand on est allé, c'est un choc vraiment thermique, là. Fait que ça, moi, au début, je me disais, mais voyons donc, comment ça que j'ai chaud de même, que on arrivait quand même, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était en Espagne, on était dans la chaleur, puis voyons, le choc peut pas être aussi grand que ça, mais l'humidité, la chaleur,
c'était... Très humide, c'est ça, l'air
Il a fallu
chargé.
Se donner un temps d'acclimatation, là. Ça a pris un bon 3 jours pour s'habituer à la température.
OK.
Puis changer de rythme, tu sais, c'est, je pense, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Là, on parle de ce qui nous a bousculé, mais le pèlerinage, c'est accepter de se laisser déranger. Et la température en est un premier élément qui est un incontournable dans le rythme que je vais me donner quand je me déplace. Ça va m'obliger à marcher moins vite, à faire plus de pauses, à boire de l'eau, tu sais, ça me transforme. On comprend un peu mieux pourquoi eux, ils vivent à un rythme plus lent également.
Oui, ça va être important d'être attentif à comment je le vis, puis d'adapter, pas rester fixé sur l'objectif. Hein, on s'était dit, on va faire ça, on s'était donné des étapes et tout ça. Puis à un moment donné, il a fallu ajuster. Ça n'a pas été ce qu'on avait imaginé parce que, ben c'est ça, il y avait des conditions de vie auxquels on ne s'attendait pas, ou en tout cas, on ne s'attendait pas à ce que ce soit un choc comme celui-là, la température.
Ouais, le chemin allait beaucoup en montagne, et c'est beau d'aller dans la montagne, c'est dépaysant, mais je ne ferais pas 4-5 jours là, parce qu'il n'y a pas tous les services qu'on souhaite non plus, il n'y a pas de point d'eau régulièrement. Nous, on s'est promené après ça à chercher à faire un chemin qui suivrait la côte. Ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. On a un point de vue, faire le tour du Del Yunque est probablement plus joli que d'être dedans. Ça vaut la peine d'aller dedans, mais de le voir de loin, de faire la plage avec tous les petits villages qui sont typiques, c'est vraiment plaisant avec les petits restaurants qui ont l'air en cabane de bois. C'est vraiment dépaysant. Aller à la rencontre de ces gens-là qu'on pourrait juger pauvres, mais qui sont d'une richesse communautaire, humaine, incroyable, même si financièrement, c'est pas un pays qui est riche, ils sont riches de cœur, donc c'est une découverte à faire, là. Il y a vraiment du très bon dans Porto Rico. Mm-hmm.
Mm. Puis dans les... Ben c'est ça, il y a des trucs qu'on a trouvé difficiles, mais on a eu des coups de cœur. Il y a eu des belles choses, comme Brigitte l'a dit, tout ce qu'on a marché qui était en bordure de mer, c'était magnifique. Puis à un moment donné, on a dit, on va sortir du sentier puis aller se créer une part de chemin à nous qui ressemble davantage à ce qu'on a le goût de vivre aussi, plutôt que d'être dans le trafic. Alors, on est allé sur l'île de Vieques, oui, qui appartient à Porto Rico, qui est une petite île à côté. Et là, on a pu faire une expérience de marche qui était vraiment géniale, avec les chevaux sauvages qui parcourent l'île. Je pensais pas qu'il y avait... Ça existait encore, des chevaux sauvages. Il y a des chevaux qui circulent partout sur l'île. On en a croisé sûrement une centaine facilement. Oui. Des beaux chemins, des beaux sentiers sur cette île-là. C'est une île où on peut aller explorer les tortues de mer, aller voir les aires de nidification. Il y a toutes sortes de trucs organisés où on peut aller voir les aires de nidification des tortues de mer. Puis il y a aussi la baie bioluminescente qu'on est allé faire le soir en kayak. Et ça, là, magique. Complètement magique comme expérience en soirée. L'eau, aussitôt que tu l'agites, elle s'allume. Comme ça s'il y avait des mouches à feu dans l'eau.
Oui, c'est le même principe que les lucioles.
Tu ressors ta main de l'eau, là, puis c'est comme si tu avais des perles de lumière qui coulaient sur ta main.
C'est extraordinaire. Donc, on a découvert en décidant de ne pas suivre le chemin tracé, finalement, en sortant des sentiers battus, on a découvert un Porto Rico qu'on a beaucoup aimé. Mm-hmm. On a fini à San Juan, qu'on a adoré.
La capitale est très belle.
Historiquement, vraiment intéressant à découvrir. Fait que là, quand on nous demande, est-ce que vous allez y aller faire un...
C'est quoi la suite, là?
C'est quoi la suite?
Emmenez-vous vos clients faire... une randonnée, un pèlerinage à Porto Rico l'hiver prochain?
On s'est dit qu'il fallait penser autrement Porto Rico pour pouvoir le vivre de manière agréable. Et c'est ça qu'on est en train de réfléchir. Parce qu'on a beaucoup aimé Porto Rico, mais le Camino del Yunque, on a un gros bémol dessus. Mais on s'est dit, nous, on est prêts, c'est pas la première fois qu'on part marchant quelque part puis qu'on dit, il n'y en a pas de chemin, puis on va le faire, le chemin, on va le tracer, le chemin. Bien, il y a moyen de s'organiser quelque chose, puis c'est aussi penser à partir de l'expérience pèlerine. Qu'est-ce qu'on va chercher à vivre? Dans quoi? Dans quel type de déplacement? Ou comment on peut provoquer le déplacement, la rencontre de l'autre en allant en Porto Rico? Parce que je pense qu'il y a quelque chose à vivre de ce côté-là qui relève de l'expérience pèlerine.
Et pour que ça colle à la couleur de bottes et vélo de Brigitte et Éric aussi. Mm-hmm. Là.
Oui, puis ce serait, j'ai le goût de dire, plus un voyage expérientiel. C'est-à-dire que je m'en vais vivre le voyage pour tout ce qu'il m'apporte comme apprentissage. Il y en a qui vont dans le sud, puis ils vont aller dans un tout-inclus, puis ils vont rester à l'hôtel et dans le restaurant de l'hôtel et sur la plage de l'hôtel. Puis finalement, tu dis, à part la météo, ben t'as pas vraiment découvert la place. Alors que là, ce serait de dire, tu vas venir vivre le sud, mais pour aller à la rencontre de ce que les gens de la place vivent et comment ils vivent. Et oui, il va y avoir du sac à dos, il va y avoir du déplacement, mais c'est la majeure ne sera pas dans le déplacement en sac à dos.
Est-ce qu'il y aura des bottes et du vélo?
On ne remettra pas le vélo.
Ah non? T'as l'air ferme là-dessus, Éric?
Ah oui, ça a été... avec le dénivelé qu'il y a, les montagnes qu'ils ont, c'est quelque chose. Ça pourrait se faire si on reste sur la côte.
Ouais.
Mais aussitôt qu'on veut traverser l'île, c'est 700 mètres.
Moi, ce que je comprends de tout ça, là, c'est que c'est pas pour quelqu'un qui a jamais fait ce genre de pèlerinage-là, d'expérience-là.
Quelqu'un qui n'a jamais fait puis qui se dit « je m'en vais là cet hiver », non. Non, c'est pas pour quelqu'un qui l'a jamais fait. Ça prend quelqu'un d'expérimenté puis qui est assez autonome dans sa manière de préparer ce genre d'expérience-là. Puis après ça, ça demande de l'ouverture parce que ce sera pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau sécurité, les gens vont être super fins puis ils vont répondre à tes questions.
On dirait que moi, j'ai une bémol sur la sécurité avec tout ce que vous avez dit.
Ah
oui,
non,
Porto Rico
non.
est peut-être sécuritaire,
oui.
mais les chemins au travers de plein de voitures, pour moi, ça, c'est comme un peu moins sécuritaire.
Ah, donc,
c'est pas dangereux, mais ça devient agressant à un moment donné parce que tu as beaucoup de voitures puis t'es toujours sur un trottoir où tu as un accotement très, très large. C'est pas dangereux. Mais bon, c'est ça. C'est pas l'expérience qu'on cherche nécessairement.
Moi, je crois que quelqu'un qui voudrait faire un pèlerinage d'hiver, on a listé, tu sais, il en existe plusieurs qui sont déjà très agréables. Déjà, il y a une partie de l'Espagne qui se pèlerine facilement à partir du mois de février.
Parce qu'il faut pas, quand on cherche souvent un pèlerinage d'hiver, on cherche pas nécessairement qu'il fasse 27, 28 puis 30 degrés Celsius. On veut juste qu'il fasse pas froid. Fait qu'il y a plein d'endroits encore de chemin où on peut aller. Puis on va avoir des températures qui se situent entre 15, 18 ou même entre 10 et 15, il s'agit juste d'être bien habillé. Puis, on n'est pas dans neige, puis c'est agréable de faire le chemin. Puis, il y en a plusieurs dans le réseau de Compostelle, du côté de l'Espagne, du Portugal. On peut faire de Lisbonne à Porto sans problème. Température est entre 15 et 20 degrés Celsius déjà là, à partir de février.
Dès le mois prochain.
C'est ça. On est déjà là.
Nous, on s'en va faire l'île de Malte avec un groupe. Et il est possible aussi de pèleriner la Sicile où tout est déjà organisé. Il est possible de pèleriner en Sardaigne également. Il y a un chemin qui est balisé. Donc,
c'est des belles températures de ce côté-là aussi. Mais c'est pas du 27-28, encore une fois. C'est des températures entre 17 et 20 degrés Celsius à ce temps ici de l'année.
D'ailleurs, dans les belles températures pour se déplacer. Beaucoup de Québécois vont aimer marcher tous ces secteurs-là.
OK. Puis là, on est-tu obligé de prendre l'avion pour aller pèleriner? Pas de neige? Je pense que oui, on est au Québec.
On n'a pas vraiment le choix. À moins, c'est sûr. On peut faire long de route, mais descendre du côté de la Virginie ou dans ces secteurs-là.
On pourrait y aller en auto, peut-être.
Oui. C'est un 15 heures
si
de route.
Si on a beaucoup de temps.
Ils ont le Greenway. Okay. Hein? C'est le Greenway qui s'appelle, Greenway qui descend la côte est américaine, qui n'est pas l'Appalachian Trail. Ils ont vraiment fait un autre chemin qui descend, qui suit le littoral et qui s'appelle le Greenway, qui descend, je crois, jusqu'en Floride.
Oui, ça commence dans le Maine et ça finit en Floride. C'est autour de, je crois, c'est un 4 ou 5 000 kilomètres en tout, au total, là, mais qui zigzague le long de la côte. Il n'est pas tout à fait terminé, mais ce n'est que de la piste cyclable et piétonnière.
Oui, et il est balisé.
OK.
Le Greenway, c'est ça.
Puis on en a fait des parties en Virginie et c'est agréable. C'est un beau chemin aussi.
Oui.
Mais c'est pour ça aussi, à partir de la Virginie, à ce temps-ci de l'année, on n'a pas très chaud. C'est autour de 8-10 degrés Celsius. Mais bon, rapidement, au mois de mars, ça va s'améliorer.
Puis s'il n'y a pas de neige, c'est déjà ça de gagner.
Mm-hmm. Oui. Fait que là, il y a comme des alternatives en attendant que Porto Rico ait été repensé.
Oui.
Et là, vous avez prévu repenser ça pour quand, là?
L'année prochaine.
Oui, ça s'enligne pas mal pour l'année prochaine.
Il va y avoir
prochaine.
Une réunion pour discuter de tout ça prochainement.
Une réunion d'équipe, oui, d'accord.
Oui, une réunion d'équipe.
C'est à réfléchir. Là, on laissait le temps passer un petit peu de revenir de tout ça. Puis il y avait beaucoup de choses qui se préparaient là aussi avec Malte qui arrive dans 2-3 semaines. On part pour Malte. Mais c'est ça. Après, on va commencer à préparer. Là, tout de suite, en revenant de Malte, on commence à préparer l'année 2025. Fait que ça va être à l'heure du jour de nos prochaines réunions.
Ils sont déjà en 2025. On vient de commencer 2024. Éric et Brigitte, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une nouveauté à part ça, hein, chez Bottes et Vélos en 2024. Et moi, je pense qu'on ne peut pas la passer sous silence. Là. On prend une minute ou deux.
C'est une nouveauté qui vient en même temps marquer. C'est le 10e anniversaire de Bottes et Vélos. Ça fait 10 ans qu'on existe déjà.
Oui.
Et ça fait 10 ans qu'on répond à la demande des gens qui nous côtoient, qui font les activités avec nous. Puis ils nous étaient souvent demandés, oui, mais... Si je veux pas forcément aller marcher. Il arrive quoi après mon pèlerinage si j'ai le goût de continuer de vivre cet esprit pèlerin-là? Et ben on a décidé d'ouvrir une auberge, la première auberge pèlerine au Québec.
Québec. Oui,
oui, on est vraiment heureux là, de ce projet-là. Bel endroit à Saint-Michel-de-Bellechasse pour accueillir marcheurs, cyclistes, tous les voyageurs aussi qui viendraient à passer durant l'été. Mais on est avec une attention particulière pour les marcheurs et les cyclistes qui vont passer et qui ont le goût de s'inscrire dans cet esprit pèlerin, qui a le goût de parler, d'échanger sur les expériences, les multiples expériences qu'ils ont pu avoir vécues, se replonger dans l'esprit de l'auberge espagnole qu'on a pu connaître sur les chemins de Compostelle. C'est un peu tout ça là, oui, qu'on veut offrir.
Ça s'appelle la Halte du Pérégrin à Saint-Michel-de-Bellechasse. Un beau village en plus pour venir passer du temps.
Encore un nouveau mot, pérégrin.
Pérégrin.
Pourquoi pas pèlerin?
Pérégrin et pèlerin, c'est dans la même famille. Hein? C'est la même chose. À l'origine, pèlerin, le mot latin, c'est peregrinus. Peregrinus, pérégrin. On a l'équivalent. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on regarde le pérégrin, le peregrinus, c'est un mot latin qui vient de l'Antiquité. Et chez les Romains, le pérégrin, ce n'est pas un citoyen romain, ce n'est pas un esclave, c'est un être libre dans la cité conquise. Fait que c'est cet aspect de liberté dans la cité conquise qu'on veut discuter avec les gens, auquel on veut convier les gens aussi. Comment je développe mon espace de liberté dans la cité conquise?
Moi, je dirais que le pèlerin, c'est celui qui est en chemin avec son sac à dos, en déplacement, qui vit l'expérience du déplacement. Le pérégrin, c'est quand il revient chez lui et qu'il est capable d'intégrer cette philosophie d'être à la vie dans son quotidien.
J'aime
donc bien ça. Donc, on passe du pèlerin au pérégrin.
Mmh. Oui. Ça, tu vois, dans les états du pèlerin, Bottes et Vélos, le pèlerin dans tous ses états, on a toujours parlé du processus pèlerin comme passant du touriste au randonneur, au pèlerin, pour ensuite en arriver au pérégrin. Mais la phase pérégrine, c'est toujours celle du retour. Avec quel espace de liberté je reviens transformé chez moi?
Et c'est une phase qui, selon moi, est un peu laissée à l'abandon. Oui. Quand on revient, on se sent tout seul. Mm-hmm. On est incompris de notre entourage parce qu'on peut-être jamais fait ça. C'est une fabuleuse idée, cette halte du pérégrin.
Tu dis on se sent tout seul et d'ailleurs, pour Bottes et Vélos, on a décidé d'organiser des retraites pérégrines, donc des temps, une fin de semaine dédiée à tous ceux qui ont vécu un chemin et qui souhaitent retrouver des semblables. Donc, il y a la prochaine fin de semaine, elle est en mars, 24 mars. Mm-hmm. Et si vous vous inscrivez à la retraite, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien d'organisé. C'est juste de venir vivre, comme Éric disait, l'auberge espagnole où j'ai un temps de liberté, j'ai un temps de partage, je vais être avec plein de gens qui ont vécu un chemin puis qui vont
va
jaser.
On prépare les repas ensemble.
Oui, c'est vraiment une vie communautaire à l'auberge.
Mm-hmm. Et j'imagine que c'est hyper cher. Et non, vous avez adapté tout ça à la situation du pérégrin.
Oui, du vendredi soir au dimanche après-midi, on reçoit les gens pour souper le vendredi soir, puis ça se termine le dimanche après-midi. C'est 200 $
$200, ça inclut deux nuitées, deux déjeuners, deux dîners, deux soupers. Mm-hmm. 2-2-2-2, 200 $.
OK. Ben là, il y a un monsieur de financier au bout de la table. Je ne sais pas s'il va être d'accord avec moi. Ton micro est ouvert d'ailleurs, Frédéric. D'après moi, ils ne savent pas compter, hein? OK, c'est ça que je pensais.
Mais j'avoue que je savoure, c'est la troisième ou quatrième fois que je suis assis à côté d'eux quand ils viennent ou quand je viens réciproquement, et je savoure leur philosophie, leur état d'âme, la façon qu'ils expriment leur passion.
Oui, c'est. T'es pas le seul à me dire ça, hein, tu sais. Les gens adorent cette zénitude-là qui sort de là, cette démarche spirituelle, hein, on va oui. le dire, qui ressort de là, qui n'est pas associée à aucune religion. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde.
Mm-hmm. Oui.
C'est ce qui est intéressant avec Brigitte et Eric. Et là, c'est ça fait parti. Quelques années que je les connais. J'ai même jamais été à leur propriété, là, où ils ont fait la halle du Périgrin. Mais là, vous ne pouvez pas vous pointer là n'importe quand. Allez voir sur leur page. C'est mieux sur Facebook ou sur le site?
Il y a le site de Bottevélo, bottevélo.com. Il y a un onglet, la halte du Périgrin. Il y a la page Facebook, la halte du Périgrin aussi, pour voir okay. les activités à venir, ce qui se passe, tout ça.
On aura la chance d'en reparler de tout ça, mais là, j'avais vraiment le goût qu'on vous glisse quelques petites graines. On va vous les arroser au fil du temps. Merci pour votre sortie de zone de confort ou d'inconfort. Je me souviens plus comment tu m'as dit ça, Brigitte, tout à l'heure.
De connu.
Porto Rico, moi, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, j'étais contente de ne pas être à votre place.
C'était difficile par bout, mais on a eu du plaisir oui. malgré
oui.
tout. C'est
oui,
ça.
Je sais.
On a trippé.
Oui. Puis, tu sais, moi, je retiens du message que vous êtes parti avec un plan X
oui.
et vous vous êtes adapté. Vous l'avez revu. Vous avez corrigé votre itinéraire. Mm-hmm. Vous vous êtes ajusté pour en ressortir gagnant, j'ai envie de dire, là.
Puis aussi, il faut accepter que... C'est sûr qu'on va, comme Brigitte l'a dit, on va toujours explorer. On veut toujours avoir de nouveaux chemins à proposer, puis on va aller les explorer, on va aller voir. Puis bien, ça se peut qu'il y en ait des chemins qui ne marchent pas aussi.
Oui?
Que ça ne fonctionne pas ou que ça ne s'y prête pas. Fait que c'est mm-hmm. ça, il faut accepter. Comme là, ici, on revient avec l'idée que c'est pas le chemin le meilleur à vivre, mais il y a possibilité de faire d'autres choses. L'environnement est bon. Mais ça oui, se pourrait aussi ça. Qu'à un moment donné, on tombe sur... Tu dis non, c'est pas l'endroit, non, c'est pas le chemin. Puis, ben il faut accepter ça aussi, de se faire dire non, finalement.
Moi, je trouve qu'on est choyé ici, au Québec, dans Chaudière-Appalaches, on va se le dire, hein? Mm-hmm. C'est... de vous avoir, d'avoir des défricheurs de terrain comme ça. Mm. On est vraiment choyés. Merci d'être avec nous autres. Merci de venir partager ça également à l'émission Vente fraîcheur.
Ça fait plaisir. Oui.
Je pense qu'on va leur souhaiter encore un autre 10 ans minimum. Hein? Je pense qu'on a le goût de les avoir encore longtemps. Le mois prochain, je n'ai pas regardé, vous venez de nous parler de...
On va être
Malte.
En direct de Malte.
Oui.
C'est ça. Fait tout que ça va être intéressant.
Tout pour nous donner le goût de voyager. Hein? Je vais remettre ça sur ma bucket list à un moment donné. Là. Merci d'avoir été là, Brigitte et Eric.
Merci à toi.
Après la pause, on retrouve Frédéric, parce que ça a l'air qu'il faut faire plaisir à notre préparateur d'impôts. Un peu plus tard, on va vous parler d'une station urbaine sympathique. Et à la toute fin, je vais vous entretenir sur sauver du temps sans vous oublier, parce que vous êtes important. Tout de suite après la pause.
CJMD, l'alternative radio.
Le vendredi dès 14h, c'est le party au 96.9. Des chroniques, des entrevues, mais surtout du gros fun. On est loin de se prendre au sérieux. En tout cas, si tu veux apprendre de quoi, c'est vraiment pas le bon show. Mais si tu veux avoir du fun et commencer le week-end en beauté, sois avec nous tous les vendredis de 14h à 20h, l'émission Le Party au 96.9. Et les samedis, ça débute à 18h et c'est 100% musical, que le meilleur dance, house, techno, vraiment la musique pour faire le party. Woo! Maintenant, va télécharger l'application pour nous écouter de partout au Québec.
Le bingo! CJMD.
Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info@commercial969fm.ca.
Nous sommes encore en direct sur Facebook. Nous sommes avec Frédéric Huillon, le financier. Bonjour, comment ça va?
Ça va très, très bien, Manon, et toi?
Super bien. Merci d'être avec nous ce matin, Frédéric. Bon, toi, on le dit des fois, t'es un peu tordu dans la vie, hein? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je sais que le mois de l'amour s'en vient, là. Hein? La Saint-Valentin, je pense que c'est dans quelque chose comme 2 semaines, là.
Oui.
Mais tu veux qu'on fasse plaisir à notre préparateur d'impôts?
Tout à fait. C'est tout
tu
à fait
Tu veux
mignon.
Qu'on aille porter des cadeaux à Saint-Valentin?
Ah, ça serait intéressant. Je reçois des cadeaux de ma clientèle, des fois, quand je leur fais des surprises où ils ne s'attendaient pas à avoir autant de retours. Des fois, j'ai des cadeaux.
Ah oui? Ah, mais c'est le fun, ça. C'est une façon d'obtenir de la reconnaissance.
Oui,
j'avoue n'avoir jamais fait de cadeau, moi, à mes préparateurs financiers. Je ne sais pas, vous autres, gang, avez-vous déjà pensé à ça? Mais c'est donc bien... Non, mais oui, mais tu dis ça, puis je trouve ça intéressant que tu dises ça. Parce qu'on pense peut-être pas. Oui, on va dire merci à notre préparateur. Oui, on va le payer. Puis on va dire, ben écoute, on l'a payé. On n'a pas besoin de faire plus. Mais justement, lui, il a fait un petit quelque chose de plus pour vous autres. Il vous a peut-être fait sauver des milliers de dollars. Ça serait quoi d'y donner? J'ai aucune idée ce qu'il reçoit, là, mais pas juste une tape, une bouteille de vin, un certificat cadeau. C'est quoi qu'on t'offre?
Ben, en cadeau, c'est beaucoup du liquide, là, spirituel.
Spirituel, du liquide spirituel. OK, pour ceux qui n'ont pas compris, là, du liquide
le
spirituel.
Dernier, la personne ne savait pas quoi m'offrir en qualité de vin, fait qu'il m'a donné carrément un 25$ de la SAQ.
Donc, le liquide spirituel, c'est du vin, c'est de l'alcool quelconque.
Exact.
Oh my God. Je pensais pas faire une chronique vin et alcool avec toi ce matin, Frédéric. Fait que maintenant, on sait comment faire plaisir à notre préparateur d'impôts, t'as plus rien à dire.
Exactement. On va donner un petit peu d'informations.
C'était ça le but de la chronique ce matin?
Parce que moi, ça fait quoi, près d'un... Ben, depuis le début janvier, là, que j'ai des nouveaux clients qui m'appellent, ouais. Du bouche-oreille qui se fait, donc je sais que ma période s'en vient. Je savais par rapport au calendrier que ça s'en vient, mais quand il commence à avoir des téléphones, des courriels, des ouais. messages Messenger, soit de ma clientèle actuelle ou qui me réfèrent déjà de leurs parents, connaissances, collègues, ben ça me dit « Oups, là, moi, il faut que je me prépare aussi. » Et ça fait... Je vais entamer ma 31e année là, de préparation de déclaration d'impôts.
OK. Fait que là, ce matin, dans le fond, tu vas nous montrer, tu vas nous éduquer à aider le préparateur d'impôts à mieux nous servir.
Exactement, oui.
Oh, génial.
Et j'ai comme séparé ça un petit peu en deux. Le côté du quand, c'est une grosse question que j'ai. Puis elle semble facile, mais il y a quand même des différences dans la réponse, j'irais. Je veux pas aller hyper en profondeur, mais je pense qu'avec les détails que je vais donner, vous allez bien comprendre, les auditeurs, là, quelle est votre situation et quelle sera votre date importante à retenir.
Oh, vas-y. Au moins, on fait ça quand?
Hein? Ben, j'avais mis une petite parenthèse en début, c'est que normalement, on devrait recevoir à la fin février, donc le mois de l'amour, on devrait recevoir tous nos feuillets, si on est travailleur traditionnel, donc de notre employeur, tous les feuillets des institutions financières pour nos intérêts, les gains capitaux et des choses comme ça. Donc, et même du propriétaire, ça je vais en parler un peu plus loin. Donc, on devrait avoir tout reçu à la fin février. Je pensais dû faire un boom. Souvent, je disais à ma clientèle, attendez la première semaine de mars, parce que si ça a été comme mis à la poste le 28 février, ben dans la première semaine de mars, normalement, tous les clients devraient avoir. Mais pour en revenir au camp, la date de base, c'est le 30 avril pour... quasi monsieur, madame, tout le monde.
Le 30 avril, pour faire quoi, là?
Pour que la déclaration soit transmise et que s'il y a des soldes à payer, qu'ils soient payés au 30 avril aussi. Donc, ils sont payables au 30 avril. S'il y a des retours, ben, là, le gouvernement retourne normalement assez rapidement. Là. Dans toutes les années, je vois, c'est sûr qu'avec les choses électroniques, les retours reviennent de plus en plus rapidement, là.
Oui, ça va plus rapide quand on fait ça électronique. Je pense que c'est dans un délai de 2 semaines.
Quand c'est gros rush, là, ça peut prendre 3 semaines.
Les fonds sont dans votre compte.
Assez
ouais.
rapide. Okay. Donc ça, c'est la date comme que tout le monde devrait avoir en tête. Il faut que j'aie fait ma déclaration pour le 30 avril.
Fait que là, tout le monde doit arriver chez le préparateur d'impôts le 29 au soir.
Exactement.
Ça serait surtout à éviter, je pense.
Ça serait évité parce qu'il y a du temps de préparation, il y a du temps de questionnement, il y a du temps de pouvoir le transmettre et tout. Là.
Okay. Est-ce que tu as d'autres dates importantes à nous fournir?
Oui, parce que là, le 30, c'est ça. Mais s'il y a si la personne est seule, elle est travailleur autonome, ou même si elle est en couple et qu'il y a un des deux qui est travailleur autonome, c'est possible de produire pour le 15 juin. Sauf que je dis à mes clients travailleurs autonomes qui outrepassent le 30 avril, donc ça leur donne un mois et demi supplémentaire à pouvoir produire. Le hic, c'est que s'ils doivent de l'impôt, ils ne doivent pas au 15 juin, ils le doivent au 30 avril.
Donc, les intérêts ont commencé à se calculer.
Exactement. Il n'y a pas de frais de retard de production, de pénalité dans ce côté-là, mais il y a des intérêts qui peuvent être... Ben, qui ont commencé à compter.
Ouais.
Donc ça, c'est cette exception-là. Autre exception, lorsqu'il y a un décès. Quelle est la date pour faire un rapport d'impôt de la dernière déclaration? Il y a comme deux dates possibles. Encore le fameux 30 avril, ou si la personne est décédée entre l'Halloween, le 31 octobre, et la fin de l'année, il y a un 6 mois. Donc le 30 novembre... Non, pas le 30 novembre, l'octobre. Je cherche mes dates, mais si c'est décédé avant l'Halloween, donc le 30 octobre, ben ça va jusqu'au 30 avril. Mais sinon, plus on avance, plus on peut additionner un 6 mois qui fait qu'on peut aller comme 2 mois de plus que le 30 avril.
Donc, par exemple, si la personne décède le 30 novembre, elle aurait jusqu'au
30 mai.
Le préparateur d'impôt a jusqu'au 30 mai.
Exactement.
Pour fournir. OK.
Donc, ça, c'est simple de dire 30 avril tout le monde, mais il y a des petites choses qui peuvent se changer.
OK. Qui peuvent faire diminuer le stress en passant, là.
Oui.
Est-ce qu'on a d'autres dates importantes à savoir, Frédéric?
On a fait un tour général de tout ce qui était possible comme date de production.
OK. Puis est-ce que... Oui?
Oui. Bien, je dis... Le boom, moi, là, j'ai fait quand même plusieurs l'année passée. Le boom se fait tout avant le 30 avril. J'ai mes travailleurs autonomes qui savent qu'ils n'en payent pas. Donc, et là, c'est ça, il y a deux vagues. Il y a la vague de ceux qui savent qu'ils retirent à chaque année, qui arrivent dès le début mars, fin février, début mars, puis leur papier, tout est prêt. Et ceux qui savent qu'ils en payent, ben, ils m'arrivent comme plus deuxième semaine d'avril, troisième. Puis, ça ne presse pas. Puis, c'est ça que je voulais dire pour là-dessus.
OK. Puis quand... Est-ce que tout le monde doit fournir les mêmes informations? Qu'est-ce qu'on doit donner à notre préparateur d'impôts pour qu'il fasse une bonne job? Puis à quelque part, que ça nous permette d'économiser à nous aussi du temps. Puis peut-être, mais si le temps, c'est de l'argent, ça nous fait automatiquement économiser de l'argent. Puis que le préparateur d'impôts, toi ou un autre, soit le plus efficace possible dans son travail. Exact. Qu'il ne court pas après nous autres.
Tu touches un point vraiment important parce que ça m'arrive, là, bon, je suis pas loin de 500 l'année passée, rapport d'impôt, et arrivé avec des dossiers qui manquent de l'information. Lorsqu'il manque juste, moi, à la fin, que j'ai tous les documents, qu'il me reste à vérifier, l'adresse a-tu changé, des petites choses de même, est-ce qu'il y a un nouvel enfant dans le décor, dans l'année, ça donne des crédits supplémentaires, bien ça, ça va bien. Mais quand il manque un document, ben là, faut mettre le dossier de côté. Et c'est, quand on a dans le gros rush, ça, c'est 2 mois faire 500. Faut que ça roule rapidement. Et oui, effectivement, cette année, là, j'ai envoyé à ma clientèle, tous ceux que j'avais des courriels, je leur suggérais de se créer une checklist. Et là, c'est un petit peu ce que je veux passer à travers quand on est étudiant, travailleur traditionnel, travailleur autonome, retraité. Ça peut ressembler à quoi, une petite checklist?
Oh, donc, gang! Donc, panique, si vous n'avez pas de papier et de crayon proche, le podcast va être disponible après l'émission. Donc, aucun problème, on va vous rediffuser ça sur les réseaux sociaux. Suivez la page Facebook Vente fraîcheur ou le financier également. Je suis persuadée qu'il va repartager cette belle information-là sur ses réseaux sociaux.
J'avoue que j'ai eu l'idée de renvoyer à ma clientèle d'impôt d'aller écouter justement le podcast. En disant, quand j'ai parlé de la checklist dans le courriel, je n'ai pas envoyé tout ce que je vais donner comme détail là, aujourd'hui.
OK. Donc, la checklist. Vas-y, Fred, je suis attentif. Oui. Je pense que je vais même prendre des notes parce que j'ai papier et crayon à ma possession.
Si on est étudiant post-secondaire, donc il y a le fameux relevé 8 et le T2202, des fois il y a un A au bout de ça, c'est un document important pour le préparateur d'impôt ou la personne qui veut faire elle-même ses propres rapports d'impôt, c'est des documents importants que l'étudiant doit recevoir, mais de plus en plus avec le côté virtuel, les écoles et tout, les étudiants ont une plateforme et il y a un endroit. Et je suis pas mal certain, j'ai déjà entendu, mais je l'entends pas chaque année, que l'école envoie un courriel, puis ça fait comme toc-toc, on t'a envoyé un lien ou on t'a envoyé dans ton portail à tel endroit, tu peux aller chercher tes documents fiscaux pour faire ta déclaration d'impôt. Donc ça vient aider à diminuer les impôts à payer là, avec les frais de scolarité. Donc ça, c'est la section qui est importante là, à connaître par rapport à un étudiant. C'est sûr que je rentre tout de suite l'étudiant, s'il a travaillé comme un travailleur traditionnel, ben, le fameux T4 que l'employeur doit envoyer à la fin février pour que ses employés là, puissent faire leur déclaration d'impôt, T4 pour fédéral et relevé 1 pour le côté provincial. Donc, c'est important que ça soit bien reçu. Je reçois des fois des clients, mais ils disent, j'ai changé d'emploi, puis j'ai changé d'adresse, j'ai pas mon T4. Ben, c'est pas au préparateur à courir aux anciens employeurs pour avoir ces papiers-là. C'est à la personne d'aller chercher les informations que j'ai besoin pour pouvoir produire son rapport d'impôt. Okay. Donc ça, c'est travailleur autonome. On embarque tout de suite les REER. Toujours la date. Peut-être que ce sera le prochain sujet là, en février, qui est le mois le plus achalandé pour les REER. Les REER, ça se divise en deux périodes. Du mois de mars jusqu'à la fin de l'année, c'est souvent la plus grosse période en termes de temps. Et la plus grosse période en termes de transactions REER, c'est dans les 60 premiers jours. Et le terme du 60 premiers jours est important. Pour cette année, ça tombe le 29 février parce que nous sommes une année bissextile. Quand ce n'est pas une année bissextile, ça termine donc le 1er mars, la date limite de pouvoir cotiser pour pouvoir diminuer nos impôts de l'année précédente. Donc, cette date-là est importante. Et si cette date-là tombe, je rentre dans des petites exceptions, mais si elle tombe un samedi ou un dimanche, ça va au lundi suivant là, pour pouvoir avoir là, la dernière, être à la dernière minute pour cotiser dans nos REER. Donc ça, c'est important. C'est sûr qu'en tant que préparateur, quelqu'un qui veut faire rapidement son rapport d'impôt, qui a cotisé à la date limite, disons le 29 février cette année, bien, il n'y aura pas immédiatement, il peut avoir un petit reçu de son conseiller financier, comme de quoi qu'il l'aura, il l'a cotisé. Donc, il aura par la poste là, une ou deux semaines après le fameux feuillet que moi j'ai besoin pour faire. Mais il m'arrive que des clients me disent, j'ai cotisé, je prends pour acquis que je rentre dans le rapport d'impôt, s'il a mis 2000 supplémentaires dans la dernière journée, ben, je l'inscris tout de suite et je dis au client, ben, dès que tu reçois ce papier-là, rentre-le avec ton rapport d'impôt. Si t'es vérifié, t'auras la pièce justificative là, pour dire, ben oui, j'avais vraiment tous ces REER-là.
Intéressant.
Oui, donc ça, c'est une partie, puis c'est vraiment ça, le 60 premiers jours, là, comme je disais, avec la date. Frais de placement, et j'ai marqué, si on est au Québec ici, vous êtes avec les caisses populaires, c'est quoi ce beau petit boom-là? Donc, les ristournes sont imposables, donc on reçoit les fameux T3, T5, des revenus d'intérêt, de dividendes et de gains capital par rapport à nos placements, que ce soit dépôt à terme, les obligations, des fonds communs qui rapportaient des gains, des intérêts et tout ça, les institutions financières doivent, eux aussi, produire. Je dirais qu'à temps partiel, je travaille à bureau de poste et on les voit passer, les institutions financières, avec les documents. Autant les gouvernements qui envoient des papiers pour dire l'impôt s'en vient que les institutions financières. Okay. Donc ça, c'est intéressant, ce côté-là. Donc si vous avez des placements, allez pas voir tout de suite votre préparateur avant de recevoir ces papiers-là.
OK.
On parle de frais de médicaments. Ça, j'ai encore, puis j'en parle à chaque client qui m'arrive quasiment avec la boîte à souliers, avec leur tous leurs papiers de frais de médicaments dans l'année. Normalement, si c'est toujours à la même pharmacie, on peut demander dès le 1er janvier, donc on peut encore le demander, toute notre comment je faisais, consommation de médicaments qu'on a fait dans l'année 2023. Donc, il nous sort la date avec les montants, avec le total en bas. Moi, c'est ce que j'ai besoin dans le rapport d'impôt, de mettre qu'est-ce que la personne a réellement payé. Donc, il y a ce premier document-là. Si vous avez une assurance médicaments avec l'employeur, donc ça peut être avec des institutions financières et tout ça, vous allez recevoir un état de compte. Et là-dessus, on voit là qu'est-ce que vous avez réclamé, qu'est-ce qui a été payé et qu'est-ce qui n'a pas été payé par l'assureur. Donc, qu'est-ce qui n'a pas sorti, ben qu'est-ce qui a réellement sorti de votre poche, c'est ce montant-là que moi, je peux réadditionner dans vos frais médicaux. Donc, c'est vraiment, là, si ça a coûté 1000 $ pour l'année et que l'assureur en a payé 800, donc, moi, le 200 devient des frais médicaux. Et souvent, les gens disent, « Oh, j'ai pas eu beaucoup de médicaments, ça vaut pas la peine, faut dépasser, là, un 3% de notre revenu pour que ça devienne des crédits. » Des fois, je dis, « Faut faire attention, parce que si tu as une assurance médicaments avec ton employeur, la prime que tu as payé pour cette assurance médicament-là, ou même que l'employeur a payé en partie, ça devient des frais de médicaments. Donc, des fois, les gens, oh, là, on le dépense, même si il n'y a pas eu énormément de frais de médicaments, mais la prime est tellement de plus en plus élevée qui fait qu'on peut pouvoir avoir ces premiers crédits-là là, par rapport aux médicaments.
OK.
J'ai marqué aussi stationnement. Des fois, les gens ils pensent pas. On va à l'hôpital, billet de stationnement à l'hôpital. Si on est à plus de 40 kilomètres d'un hôpital ou quelque chose qu'on doit se déplacer par rapport à...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Médecine, bien, on peut réclamer du kilométrage. Donc, ça, c'est des frais supplémentaires. J'embarque sur le côté locataire. Si vous êtes locataire...
Avant, Frédéric, oui? Est-ce qu'il n'y a pas tout massage, ces choses-là, qui ne rentrent pas dans les frais médicaux également de la pharmacie?
Oui,
là?
Effectivement, tu as raison.
Tout, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses que le massage, ostéo,
chiro,
ces choses-là
oui,
aussi.
Hein? Les lunettes, des fois, ne rentrent pas.
Oui, on peut demander. Ouais. Fait qu'il y a peut-être des petits à côté comme ça, dentistes,
oui.
Choses comme ça. Hein?
J'avais oublié ça. Okay. Merci de me le faire passer.
Ça aurait pu changer. Là. Écoute, il y a tellement de choses qui changent dans la vie. Que... mais oui. C'est encore bon de donner ça.
J'avais pensé au stationnement, mais j'étais pas revenu à la base. Et oui, effectivement, okay. Manon marque un très bon point là-dessus.
Excellent.
Point de vue locataire, bien votre propriétaire, si vous êtes locataire, doit vous fournir le fameux relevé 31 qui vient vous aider à augmenter votre crédit solidarité. Donc, ça, c'est un document que le propriétaire indique qui a signé le bail. Donc, la personne qui vit à un endroit qui n'est pas locataire, je veux dire légal, je n'aime pas le côté légal, peut rester dans l'appartement légalement, pareil, mais qui n'a pas rempli avec le propriétaire là, le fameux bail, ben il ne recevra pas ce relevé 31-là. Donc ça, si vous êtes vraiment avec un bail signé à l'année, qui se renouvelle à chaque année, ben votre propriétaire est dans l'obligation de vous remettre là, le fameux relevé 31. Et ça... ce qui est malheureux, c'est que d'année en année, le numéro ou le grand numéro que je dois rentrer avec le nombre de personnes vivant sous ce toit-là change. C'est un numéro qu'on peut pas inventer. Là. Okay. Donc ça, c'est locataire. De l'autre côté, si on est propriétaire, on peut avoir ce même genre de crédit-là. Là, il faut aller chercher ce qu'on appelle le numéro de matricule. C'est sûr que j'aime fouiller et tout, fait que bien souvent, les gens ne me portent pas leur numéro de matricule. Ben, je vais sur Internet, sur la ville de Québec, exemple, ou dans le comté de Portneuf, où est-ce que j'opère là, principalement. Je vais chercher, là, puis en allant là, ben, je vois qui est propriétaire, donc je suis capable de valider qui si c'est vraiment eux qui sont propriétaires de l'adresse qu'elle me donne. Et de deux, ça me dit immédiatement, là, si c'est le couple qui est propriétaire ou juste un des deux. Donc, c'est la personne, s'il y a un des deux, puis le couple me dit, le crédit, donne-le à ma femme, puis si la maison est à son nom, ben, je peux pas faire ça, faut que je le mette au nom de la personne, là, qui est propriétaire.
OK. Quoi d'autre ça prend à notre fameux préparateur d'impôts?
Et on est quand même, on avance vite. Hein? Propriétaire, si vous avez acheté une nouvelle maison, il y a un beau crédit de 15 %. Donc ça peut être très intéressant de dire à votre propriétaire, souvent je la pose, bien entendu, mais des fois on pose même des questions, on peut bifurquer dans la conversation, puis je la poserai pas, ben de le dire parce qu'il y a un beau crédit. En sens inverse, si vous avez vendu une maison dans l'année de préparation, là, ça serait 2023, faut le dire aussi au préparateur parce qu'il y a besoin d'informations supplémentaires. Par exemple, le prix de vente et la date d'achat versus la date, ben, l'année de vente. Là, on s'entend que ça va être 2023. Donc ça, présentement encore, ce n'est pas imposable parce que c'est une maison principale. Elle n'est pas imposable, mais ça fait quand même 4 ans facile qu'on a l'obligation en tant que préparateur, quand notre client a vendu, qu'il faut venir comme donner ces informations-là. Est-ce qu'un jour, il y aura du gain capital à payer là-dessus? On sait que tout de suite, nos voisins du Sud payent de l'impôt sur le gain capital d'une maison principale.
Okay. Fais-nous pas peur, là.
Non, on oublie ça. On l'effacera. Et je vais aller vite. Personne à la retraite, ben, les revenus de pension fédéral, T4A, OAS, il y a le côté revenu, supplément de revenus qui rentre sur ce même feuillet-là. Pension provinciale, le fameux RRQ, donc le T4AP. Donc, c'est deux documents importants pour les gens qui sont à la retraite. Donc, ils reçoivent plus de T4 à la base s'ils ne sont plus actifs sur le marché du travail, mais sur quand ils reçoivent des pensions, ils ont des feuillets supplémentaires. Je veux ouvrir une parenthèse, travailleur autonome, qui est un petit peu différent. Mm-hmm. On a parlé au tout début qu'ils ont la possibilité de produire un mois et demi plus tard, mais s'ils doivent l'impôt, ils la doivent toujours au 30 avril. Donc, quand les clients me demandent qu'ils sont travailleurs autonomes, ils me le demandent avant le début de la saison, je dis, gars, t'as jusqu'à 15 juin, mais mets-toi dans ta tête le 30 avril, oublie le 15 juin. Et de un, si t'as pas à payer, c'est pas pire, mais si t'as à recevoir, pourquoi tu le recevrais pas plus tôt? Pourquoi attendre un mois et demi? Mm-hmm. La question est là. Donc, ce qu'on a besoin, ben, de base, c'est état des revenus. Donc, les revenus et les dépenses. Des fois, ça m'arrive de moins en moins. J'éduque ma clientèle de travailleurs autonomes, mais ça m'est arrivé des fois, il m'arrive avec les factures de l'année. C'est parce que là, faut que je passe du temps à faire comme de la tenue de livre pour monter les états financiers. Donc, ce qu'on demande, c'est les gros postes de dépenses, c'est quoi le total de l'année, versus aussi les côtés des revenus, le total des revenus de l'année. Donc, si on a besoin de ça à la base. Des grosses factures, des gros achats, que ce soit un automobile, du gros équipement d'informatique et tout ça. Donc ça, il y a de l'amortissement à faire. Donc, il y a des calculs différents dans le rapport d'impôt. On rentre dans des annexes totalement différentes que le particulier à la base. Et aussi, très important, deux champs, puis je termine avec ça maintenant pour pas trop défoncer le temps. Deux domaines très importants à parler quand on est travailleur autonome. Le côté de pourcentage à faire en déplacement de voiture et le côté pourcentage à faire si on est à la maison même.
Donc, le bureau à domicile.
Exactement, alors. Oui. Donc, pourcentage, puis là, il y a deux façons différentes. Je ne veux pas rentrer dans tous ces petits détails-là, mais c'est des choses importantes. Toujours, quand tu as donné, moi, je préfère qu'on me donne 100% de toutes les factures de l'année en électricité. Et là, après ça, quand on détermine que c'est 30% de ma maison que j'utilise pour affaires, ben là, moi, je prends le total, fois 0.3 pour 30%. Et j'ai mon total que d'arriver avec le 0.3, puis là, oh non, là, c'est rendu à 0.35, il faut tout faire une règle de 3 et tout ça. Fait que je préfère avoir le 100%. Et après ça, de toute façon, dans l'annexe, je mets les montants à 100%, puis je viens dire c'est quoi le pourcentage qui est utilisé pour affaires.
OK. Donc, toi, pour pouvoir faire ça, tu as besoin de connaître le pourcentage, tu as besoin de connaître c'est quoi les dépenses aussi qui rentrent là-dedans.
Exact.
Là, que ce soit le téléphonie
pour
cellulaire,
l'assurance, les télécommunications, okay. Effectivement.
Okay.
Donc, c'est ça la base, le côté dépenses de bureau et tout ça.
Et l'idéal pour vous transmettre, pour vous donner cette information-là, c'est quoi? C'est un chiffrier Excel? C'est...
Bien, souvent, la majorité de mes clients maintenant m'apportent carrément comme un état des résultats. Là,
okay.
Le revenu en haut, les dépenses. Et là, après ça, on parle de
pourcentage. C'est la façon optimale de transmettre ça.
Oui.
OK.
Exactement.
OK. Quoi d'autre pour le travailleur autonome? C'est tout?
Oui.
OK.
J'ai fait pas mal le tour là, de ce que j'avais sorti là, en point télégraphique.
OK. Donc, en ayant cette checklist-là, bon français, hein, cette petite liste de vérification-là, vous allez gagner du temps parce que vous allez vous préparer vous autres même avant de prendre rendez-vous avec votre préparateur d'impôts pour aller lui porter. Peut-être que vous allez lui transmettre électronique. Hein? J'imagine que les deux camps maintenant.
Bien, ça fait 31 ans là, que je commence, donc j'ai vécu la clientèle très locale et là, ça fait plusieurs années là, que j'ai des gens plus à l'extérieur, mais là, c'est de plus en plus, même des gens qui sont. Peuvent être assez proches, qui m'envoient ça par courriel. Donc, ça, c'est. Faut que je m'adapte à travers de tout ça, les côtés de paiement électronique et tout. Là.
OK. Donc, si vous voulez gagner du temps, que ça se règle rapidement, bien, moi, je le dis souvent, hein, c'est la préparation. Et c'est à peu près dans tout cette recette-là. Préparation, 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 préparation. Encore préparation. C'est ça, hein?
Oui.
C'est le côté peut-être un peu plus plate, un peu plus dull, surtout quand on n'aime pas ça. Mais c'est un côté qu'on doit faire, à moins qu'on soit hyper organisé, qu'on soit déjà dans la délégation. Il y a peut-être, si on est en couple, il y a peut-être quelqu'un des deux qui est plus fort que l'autre à faire ça. Il y a tout un partage à faire, mais vous pouvez y arriver, gang. C'est un petit sprint à donner en cette période de l'année.
Le fait d'avoir une chemise, puis quand les papiers arrivent, tes cartes et tout ça, on met ça dedans, c'est marqué impôt, peu importe comment vous allez l'appeler. Là. De mettre ça là pendant janvier, février, là, ça, c'est une chemise importante. Là. J'ai des clients, carrément, c'est ça, ils m'arrivent, ils mettent les enveloppes, ils les ouvrent même pas. Ils m'arrivent, voici mes papiers d'impôt.
Et là, Frédéric, une fois qu'on a tout rassemblé, nos documents, est-ce qu'on doit attendre une date précise avant d'aller te porter? Parce que des fois, on les reçoit rapidement. Des fois, on les reçoit vraiment juste à la fin du mois de février. À partir de quand qu'on peut aller porter tout ça à notre préparateur une fois qu'on les a toutes?
J'oserais dire maintenant que cette année, je connais la date que le gouvernement nous donne le droit de envoyer les rapports d'impôt, la fameuse TED, la transmission électronique de données. Elle est en date du 19 février. Bien souvent, là, j'ai déjà des gens qui ont commencé à booker mon agenda pour le 4 mars et compagnie. Là, quand j'ai dit d'attendre la première semaine de mars, j'ai des gens qui ont déjà. Ça m'est arrivé dans le bout de la Saint-Valentin. Je leur dis, je peux le préparer, mais je pourrais pas le transmettre avant. C'est souvent dans le bout du 20 février là, que le gouvernement, le dernier mois là, de 20 janvier au 20 février, ils rafraîchissent leur base de données. J'ai des clients là, qui vont arriver comme à la fin février, dernière semaine de février, mars, et là, ça part. Et c'est sûr que les clients qui arrivent le 25 avril, le 26, ben, je peux commencer à dire, j'en ai encore en main que je termine, que j'ai promis pour le 30 avril. Je vais essayer, mais je suis pas sûr.
OK. Puis, en règle générale, lorsque le préparateur, plutôt, reçoit tous les documents nécessaires, que le dossier est complet, qu'il n'y a pas à courir après les informations, il peut produire là où les déclarations de revenus dans combien de temps?
Je me donne maximum une semaine.
OK.
J'essaie d'un 5 jours ouvrables. Si j'ai vraiment tous les documents, ça se fait... Parce qu'un rapport peut être très rapide, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand il arrive, il y en a d'autres qui sont arrivés avant, là.
Okay.
Quand je me donne une semaine, je suis pas mal dedans. S'il manque pas de papier, là, Puis ça m'est déjà arrivé le 30 avril que je me tournais les pouces, puis il y a un client qui appelle, « Hey, ma fille, elle a oublié de le faire. Ben, viens me porter les papiers. »
OK. Parfait. T'as encore de la place pour prendre des nouveaux clients?
Toujours.
Donc, si ça vous tente d'être organisé, d'être bien servi, j'ai l'impression, en tout cas, Frédéric, que t'es bien organisé, puis que tu sens bien ta clientèle. Je veux pas porter de jugement.
Je parlais avec quelqu'un hier, là, j'étais à des funérailles, puis je disais que ma clientèle, ma plus grosse force d'augmentation de ma clientèle, c'est le bouche-à-oreille. Puis je pense que c'est comme le résultat d'un bon service.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est souvent le résultat. Le bouche-à-oreille, ça demeure encore
le meilleur
très
marketing.
Très primé, oui, comme marketing, comme moyen de communication pour transmettre. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un bon deal quelque part, on en parle? Bien, c'est la même affaire avec notre préparateur d'impôts. C'est la même affaire avec une recette. C'est la même affaire avec une bonne émission de radio comme Vente fraîcheur. On fait ça tout le temps. Merci Frédéric pour cette petite mise en bouche. C'était une chronique un peu différente des autres que tu as fait, qui était peut-être un peu plus technique, préparation, un peu plus de concret, très éducatif.
Là,
oui. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à réécouter le podcast, à le partager pour que vous soyez mieux servis, vous autres aussi, mes chers auditeurs, en tant que gens qui ont à faire cette tâche qui peut être lourde pour certains. Après la pause, on reçoit la station urbaine sympathique et on va également parler de sauver du temps sans s'oublier. À tout de suite, ma belle gang!
Bye bye.
Yeah, what up? Ici Shudi, Bardi Boys Distribution 06, live à 96.9 FM.
CJMD.
Aimez-nous sur Facebook, CJMD 96.9.
969.
À la découverte des organismes lévisiens présentés par Desjardins, ce matin, j'ai l'honneur de recevoir une station urbaine sympathique. Ouais, rien de moins. Avec M. Michel Gagné, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation, ce monsieur-là. Il me semble qu'on le voit souvent.
Dans le temps, j'étais à la ville aussi également, là, puis j'étais impliqué dans quelques causes. Mais il y a plus qu'un Michel Gagné à Lévis aussi.
Oui, aussi, c'est presque un nom commun, non, c'est pas vrai.
Ah, ouais.
Mais vous êtes le seul et l'unique comme vous. Vous avez votre propre couleur. Et là, la station urbaine sympathique, d'où ça vient ce nom-là?
C'est sûr que c'est la nouvelle image de marque du centre de plein air de Lévis, donc du Mont-Lauzon, du Mont-Caillou pour les gens qui sont plus familiers avec la station depuis plus de 60 ans. Ça fait qu'un petit centre de ski urbain. C'est pour ça qu'on a développé cette image de marque-là. Il y en a quelques-uns au Québec, là, mais le nôtre est assez particulier. Là, en pleine ville, tout près du Cégep, sur Monseigneur Bourget. C'est un bel acquis, un bel actif pour la ville.
Ah oui, moi, à chaque fois que je passe ça, je me dis, hey, on a vraiment ça à Lévis dans... tout près, accessible, là, très, 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 très proche. Et depuis plusieurs années...
On parle de plus de 60 ans.
Oui.
Alors, mis en place par l'ancienne municipalité de la ville de Lévis, de Lauzon dans ce temps-là, avant la fusion avec Saint-David et puis et Lévis.
Et c'est quoi la mission? On va commencer par la mission. C'est quoi la mission de ce centre de plein air de Lévis?
Ben, avant tout, c'est une initiation au sport de glisse. Alors, on parle de la planche, on parle du ski. Puis on a également une glissade sur place. Fait que c'est un équipement communautaire, on le définit comme ça, mis à la disposition de la ville, à la population de Lévis. Mais maintenant, on rayonne beaucoup plus que Lévis. On rayonne dans toute Chaudière-Appalaches. Je vous dirais Montmagny, Bellechasse-Lobinière, puis même de l'autre côté du fleuve qui vient. Compte tenu de la qualité des équipements qu'on a maintenant, puis de l'offre très accessible qu'on fait aux familles. Donc, on parle sport de glisse dans un premier temps, puis ensuite également, on se veut un actif communautaire avec certains, je pourrais vous reparler de quelques collaborations qu'on a, mais aussi très accessible à la famille, c'est ça l'idée.
Accessible à la famille, plein de collaborations, mais là, les sports de glisse, c'est autant la chambre à air que le ski.
Oui, nos deux activités principales, c'est ski snowboard, mais on a aussi une glissade là, qu'on utilise, là, qu'on met à disposition des gens. Là. Mais si on regarde, c'est avant tout, comme en cours de groupe, par exemple, de cette année-ci, on a 440 jeunes en cours de groupe. On a déjà près de 1500 heures de cours privés, de cédulés également. Ça fait que c'est vraiment ça. Mais je vous dirais, on parle jeunes, mais on parle adultes également. Là.
C'est pour tous les âges.
Mon voisin de studio disait qu'il y avait une difficulté à tourner d'un côté. Je pense qu'on pourrait résoudre ça parce qu'on a beaucoup d'adultes qui reviennent. On a beaucoup de personnes immigrantes. Vraiment beaucoup à chaque week-end. Puis on a des grands-parents qui viennent refaire du ski avec les jeunes. C'est un site familial, vraiment.
Et il y a une boutique de location, je crois, également.
Ouais,
il y a même un remonte-pente. Vous ne remontez pas ça à pied, gang, là.
Disons que dans les principales améliorations que notre corporation a fait depuis 8 ans, évidemment, en collaboration avec la ville, parce qu'on a besoin du support de la ville, il y a deux types de remontées qui ont été ajoutées. Dans la Pentecôte, on a ce qu'on appelle un tapis mécanique. Alors, c'est un petit convoyeur, là, comme vous voyez à l'épicerie, sauf que celui-là, il sert à remonter les gens en haut de notre Pentecôte sur environ 120 pieds environ.
Pour un moment, vous vous transformez en sac d'épicerie.
Oui, c'est ça. Ou en caisse de bière, ou en d'autres articles.
J'adore l'image.
Mais la grosse amélioration, ça a été, il y a 3 ans, le remplacement du T-Bar. Puis les gens qui venaient au centre il y a 10-12 ans se souviennent de notre sympathique T-Bar avec son pitch à la fin qui faisait tomber les jeunes puis qui retardait toute l'histoire. On a, grâce à la collaboration de la ville, récupéré et même acquis la remontée du relais. Alors, le quadruple du relais. Alors, on a maintenant une chaise quadruple au Mont-Lauzon. Ça surprend beaucoup, beaucoup de gens. Je vous dirais que sans faire une étude, je vous dirais qu'on est probablement la plus petite montagne au Canada avec un quadruple, 62 mètres de dénivelé. Là.
Puis c'est ce qui est impressionnant quand on passe sur Monseigneur Bourget. Puis là, en tout cas, moi, souvent, j'arrive, puis c'est à ma gauche, puis là, je fais... Ah oui, c'est vrai, on a ça ici à Lévis. Vous aurez compris que c'est pas moi la cliente cible de ça, mais c'est fabuleux qu'on ait ça pour les gens qui adorent ce genre de sport-là, qui peut aller se pratiquer. Puis on n'a pas besoin, je crois, Michel, d'être des experts pour y aller.
Non, du tout. Notre mission, là, c'est vraiment d'initier les gens. C'est pour ça que notre lien est très bon avec les autres stations. Oui. Dans le fond, nous, on est une pépinière. Et les gens viennent chez nous, puis quand ils ont appris, c'est sûr qu'ils s'en vont visiter d'autres montagnes. Ils viennent chez nous, mais ils s'en vont visiter d'autres montagnes. C'est intéressant de ce point de vue-là. C'est pour ça, même la semaine, les gens sont moins au courant, là, mais on va avoir 2000 jeunes qui vont venir s'initier avec un programme de l'Association des stations de ski qui s'appelle Manet. C'est gratuit, les écoles réserves y viennent. Fait qu'on est vraiment, c'est vraiment notre mission, là. Mais... On a rajouté le volet site familial maintenant. Okay. Les gens viennent de plus en plus aussi en famille. Ou les vendredis soirs, c'est sûr que, mettons qu'au lieu de monter ton jeune à Stoneham ou au lac Beauport, les jeunes ont découvert, viennent au centre, d'autant plus que les vendredis soirs, si vous me permettez, on a ce qu'on appelle les vendredis étoilés. Fait que c'est même des soirées où c'est tarif réduit. Fait ce qui est pour 9 $ puis 10 $ pour l'équipement. Puis il faut pas oublier non plus que la Pentecôte, elle est gratuite en tout temps. Pour tout le monde, là. Ça veut dire que quelqu'un qui sait pas skier, il vient, il va se louer des skis à la boutique, il s'en va dans Pentecôte, puis on a quelqu'un aussi pour guider, que ça soit sécuritaire, donc il peut essayer.
Attends un petit peu, Frédéric.
Ouais.
Ton micro était pas ouvert.
Ouais.
Oh, je m'excuse.
Reprends ça.
Quand vous parlez équipement, c'est bottes, ski,
complet,
bâton?
Équipement complet. Équipement complet, casse, bottes, bâton, snow, pour une dizaine de dollars, on est vraiment accessible. Mais les vendredis soirs, c'est particulièrement le fun, c'est qu'on a des organismes communautaires à chaque vendredi qui viennent, ils animent le feu, donnent du bouillon, marshmallow. Nous, on leur donne 10 billets, 10 locations pour leurs bénévoles ou leurs membres. Puis à la fin de la soirée, quand on fait nos chiffres, puis la moitié des profits est donnée à l'organisme. Fait que ça, c'est un programme qui est en lien avec le Rotary de Lévis.
Oui.
L'année dernière, on a redonné 6 000 $ aux organismes qui sont venus. Puis s'ils sont pas chanceux, puis ils prennent la soirée à moins 28, là, on lui donne quand même 500 $ là.
Oh!
Fait que c'est une belle collaboration. Ça fait partie aussi de la mission du centre. On veut être un actif communautaire également, parce qu'on a une capacité de générer des revenus. Fait qu'on veut en faire profiter aussi d'autres organismes.
Là. Et là, comment vous faites pour faire fonctionner tout ça? Il y a certainement des gros joueurs économiques, j'imagine, dans le décor qui vous amènent des fonds, ou c'est simplement la clientèle qui y va, vos bailleurs de fonds?
Ben, le premier de tout, ça reste la ville de Lévis, là, parce qu'on a notre corporation, il y a 8 ans, on a une entente de gestion avec la ville. Fait que ça, c'est vraiment important. Quand on parle du chalet, c'est la ville. L'éclairage, c'est la ville. La dameuse, c'est la ville. Fait que ça reste un partenariat intéressant. De notre côté, ben le budget, on l'a porté à presque 500 000 $ par année. Et de notre argent à nous, ça fait près de 250 000 $ qu'on investit, là, dont 150 000 en achat d'équipement, là, vraiment, pas ça, une billetterie, etc. Puis après, on a le milieu qui est là, évidemment. Puis je suis ici, vous parlez de Desjardins. Desjardins est un bon partenaire, j'y reviendrai. Mais on a Jean Bette qui nous a aidé beaucoup. On a JM Demers quand ça a été le temps de faire l'agrandissement de la Pentecôte du Snowpark. On a beaucoup de partenaires. Puis on a des gens dans la Pentecôte qui sont là. Comme là, on va annoncer cette semaine ça comme nouveau partenaire financier. On va annoncer Davy. Alors, tous ces gens-là qui commanditent des panneaux là, sur notre Pentecôte nous permettent de l'offrir gratuitement. Fait que je dirais que si j'avais toute la liste avec moi, on a au moins 15 à 20 partenaires financiers là, durant l'année. Là.
La communauté s'engage beaucoup à ce développement-là, je trouve. Il y a des beaux mariages, que j'ai envie de dire, qui se font. Vous avez effleuré le sujet de Desjardins. Quel impact que Desjardins a sur votre organisme?
Desjardins, ça leur est arrivé lors de la deuxième ou troisième année de la corporation où on avait beaucoup d'investissements à faire, là, même si la ville nous aidait en termes d'équipement, location d'équipement, parce qu'au début, les gens arrivaient, il y avait une file d'attente, c'était un peu serré, il y en a même des gens où on était obligé de leur dire, ben là, on n'a plus d'équipement, il fallait travailler là-dessus, on avait beaucoup de demandes, de choses à faire, et on avait besoin d'une remontée dans la Pentecôte. Et on n'avait pas les sous pour l'acheter, puis la ville avait déjà contribué, puis c'est Desjardins qui a été le levier. Alors, le levier financier pour nous aider à faire l'acquisition de ce tapis mécanique-là, qui appartenait aussi à la SSQ, qui était prêt à nous l'offrir à un bon prix, mais on n'avait pas l'argent et pour l'acheter et pour l'agrandir. Ça fait que Desjardins a été le levier. Puis ensuite, ils sont devenus des partenaires réguliers du centre en termes de semaines de relâche. C'est Desjardins qui est là. Ils viennent régulièrement dans plusieurs de nos projets. Ça fait que ce levier-là, ça correspond à leur mission, ça correspond à leur volonté d'aider au développement du milieu par des projets structurants. Ça fait que chez nous, ça a été très important. Et là, on est en train de rediscuter avec eux d'un autre projet là, qui d'immobilisation. Tout est déposé. On devrait avoir une réponse au mois de février avec eux. Puis c'est important. Là. Ça reste, outre la ville, ça reste notre partenaire principal.
J'imagine que ce partenariat-là avec Desjardins, il est basé sur des valeurs communes. Pouvez-vous nous en parler?
Bien, je suis retourné faire un petit tour. J'ai fait mes devoirs quand on regardait. Même je suis habitué de collaborer avec eux. Puis en fait, quand je regardais ça un petit peu, c'est ça que dans le volet dans lequel on est, les saines habitudes de vie. Alors ça, c'est un volet qui est identifié par Desjardins également au niveau des valeurs, aider à l'amélioration de la qualité de vie puis des saines habitudes de vie. Il parle aussi également de projets structurants qui sont profitables à la majorité. Alors, on voit leur investissement. C'est un investissement qui est non seulement pour toute la ville, parce que les deux caisses y participent, et la caisse de Lévis et la caisse de la Chaudière, mais même régionalement. On parle de développement de la collectivité. Ça veut dire que le partenariat que nous, on a avec les organismes, eux également, sont en arrière de ça. Fait que ça leur apparaît important. Puis d'être engagé et présent. Écoutez, j'ai répertorié, en y allant dans les derniers jours, au moins 20 organismes importants en santé, en développement économique, en service à la population. On parle de Jonction pour elle, tous des organismes de ce type-là qui sont supportés par Desjardins.
Ah oui, et hier soir, ça fait drôle de dire ça parce que je suis en couple, mais je suis l'administratrice du groupe Facebook Célibataire en Chaudière-Appalaches. Et hier soir, la gang avait organisé un souper dans un restaurant thaïlandais ici à Lévis, là, les délices, pour ne pas le nommer, tout près du Poulodrome. Et je suis allée souper avec la gang. Et dans la gang, moi j'aime ça jaser avec tout le monde, bien, croyez-le ou non, il y avait des gens de Desjardins. Puis on n'était pas une si grosse gang que ça. Mais les gens de Desjardins étaient là. Et quand j'entends que ce sont des employés de Desjardins, moi, tout de suite, parce qu'à l'émission, entre autres, à chaque semaine, je reçois un organisme sans but lucratif, je vais leur demander, « Ah, bien, c'est sûr que tu fais du bénévole. Tu fais du bénévolat. Fais ça où, toi? Quel organisme? » Mais croyez-le ou non, j'ai découvert de nouveaux organismes hier soir en allant souper là. Que je vais probablement inviter ici, parce que ça fait partie de la culture de l'émission. Et il y a vraiment des beaux organismes, comme le Centre de plein air. Vous faites des partenariats, des fois, je me dis, vous avez nommé des gens tout à l'heure, que je ne connais pas. Mm-hmm. Donc, ça nous apporte, et en plus de ça, vous êtes dans le domaine, moi, j'ose dire, vous êtes dans le domaine de la santé, du plein air. Vous êtes des solutions alternatives pour améliorer la vie des gens, qui est vraiment la mission ici de l'émission. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial de voir que Desjardins s'engage dans son milieu, qui sont là pour des projets de soutien, comme vous nous avez parlé, qui répondent aux besoins et aux attentes de la collectivité, puis qui redonnent également à la collectivité.
Ils sont également présents sur plusieurs conseils d'administration.
Oui!
Les gens de Desjardins, puis on voit aussi des corvées, comme au Grenier, Repas Desjardins. C'est vraiment un partenaire important, puis je pense que, tu vois, on peut dire à la grandeur du Québec, là, Desjardins, c'est quand même un gros moteur d'économie. C'est parce que je vous disais, c'est le levier, là, encore une fois, dans le prochain projet qu'on a là. C'est un peu drôle de ne pas pouvoir le nommer, finalement.
Ben,
mais
oui,
ils vont être le levier, encore une fois, là, du même type. Là. Et disons que ça va servir à nos, particulièrement à notre clientèle, mais particulièrement à nos 132 employés. Parce que ça peut paraître drôle, là, c'est tout petit, là, mais sur notre liste de paye, on a 132 personnes composées majoritairement de jeunes. Pour qui c'est le premier travail, et d'adultes maintenant et de retraités. Puis pour nous, c'est important aussi, ce volet-là. Et Desjardins, c'est ça. Il sait qu'on travaille avec beaucoup de jeunes. C'est comme un premier emploi. Puis on se voit comme un milieu de vie, un milieu d'apprentissage comme premier travail. Puis c'est vraiment plaisant. Puis ce dont on est fier, si je regarde encore cette année, on a rajouté une quinzaine de jeunes. Puis comment ça se fait qu'ils viennent chez nous? Bien, ils viennent chez nous parce que c'est les employés actuels qui les amènent. C'est les amis qui les amènent. Fait que là, on est fiers de ça. Ça veut dire qu'on doit être un employeur de qualité. Parce qu'oubliez pas que nous, on est ouvert 12 semaines. On est ouvert du 26 décembre jusqu'au mois de mars. Et on est ouvert principalement deux périodes. La période des fêtes et la période de la relâche en journée continue. Sinon, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ça veut dire que ces jeunes-là, ils pourraient travailler à l'année à d'autres endroits. Alors que chez nous, ils font le choix de venir chez nous pour 12 semaines. Puis ils continuent à venir chez nous. C'est intéressant. Puis ça, Desjardins, c'est ça aussi. Puis je pense que les jeunes, pour Desjardins aussi, le fait que ça soit animé et que le moteur, finalement, de l'activité soit des jeunes, c'est important.
C'est un autre point commun que vous avez avec les caisses Desjardins. Les projets répondent vraiment aux besoins de la collectivité lévisienne, j'ai envie de dire.
C'est ça. Ouais. Ah oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter au centre de plein air de Lévis
conserver le support de la population, là, de la fréquentation, que les gens continuent à nous encourager, que les gens continuent à parler de nous. Je pense que ça, c'est important. Avec la ville, on peut dire que par la forme d'entente qu'on a avec eux, que ça continue, ça, moi, j'ai pas vraiment de doute parce que c'est un... Excusez l'anglicisme, mais c'est un win-win-win autant pour la ville que pour la corporation. Mais aussi, on arrive avec des projets ponctuels, puis la ville continue quand même à nous appliquer. Puis que le partenariat, que la région vienne avec nous, puis de notre côté, qu'on soit en mesure de continuer à développer notre implication. On est membre de la table d'économie sociale, on est membre de la Chambre de commerce, on est membre de l'ATR. Donc, on veut également redonner. On redonne régulièrement des séries de billets, des cours. Là, c'est une fondation chevaline qui vient de me contacter. C'est à Saint-Nicolas.
Chevalerie Passion, peut-être?
Oui, exactement, avec Erika Plante.
Oui, on les a déjà reçus.
Erika m'a contacté. Elle dit, on fait un encan, aurais-tu des billets? Oui, ça va nous faire plaisir. On va faire tirer des cours. On l'a fait avec l'encan de la Maison de soins palliatifs. Fait que je pense que pour le centre, finalement, c'est de continuer un peu sur la lancée qu'on a eue. Ça fait 2 années qu'on accueille près de 20 000 personnes en 42 jours d'opération. Je vous dirais, dimanche passé, 700 personnes dans la journée qui passent. Puis en plus, au travers de ça, tu as 200 quelques jeunes en cours de groupe, puis 80 en cours privé, puis tout roule à la boutique en bon, on sort près de 200 équipements par jour. Fait que nous autres, on veut juste continuer sur cette lancée-là, parce que quand on l'a pris il y a 8 ans, il y avait 3500 personnes. Il y avait toujours beaucoup de cours de groupe. Il y avait toujours 400-500 jeunes en cours de groupe, mais des journées de ski, les gens qui venaient skier, il y avait à peu près 3500. Fait que là, on l'a monté de 9000, 10000, 12000. C'est là que la ville, à 12000, on voyait que le T-bar, ça fonctionnait plus. Là. C'est là que la ville a dit, OK, vous êtes rendu là, vous avez fait vos preuves. Go, on y va.
Et là, avec les sautes d'humeur de Dame Nature...
Est-ce que ça
va bien quand même?
On n'est pas si mal parce que, voyez-vous, en novembre, décembre, on enneige. On a 3 équipements d'enneigement, mais on n'a pas une si grosse superficie que ça enneigée, fait qu'on est prêt. Puis le truc, là, je vais vous le dire, on peut le partager avec d'autres stations, j'ai pas de problème. Je sais que tout le monde est un peu dans le milieu. L'idée, là, c'est que quand on fait la neige, on la laisse en butte. Fait que le centre a des montagnes dans la montagne et on l'étend à la fin. Comme ça, si jamais il pleut comme il a plu... juste avant Noël, on est quand même capable d'avoir des conditions correctes. Dans le fond, on était ouvert presque complètement, sauf le snowpack, mais les gens avaient de la misère à croire qu'on avait de la neige.
Oh.
On va travailler, on va s'adapter. Je pense qu'on est capable de faire de quoi de très correct. Les équipements sont plus performants. Vous savez que presque à 5, 6, 0, tout près de 0, on est capable de faire de la neige maintenant.
Fait qu'une belle journée comme aujourd'hui, où il fait 0 dehors, peut-être un ressenti de -3.
Ouais.
Il n'y a aucun problème.
Non, non, on en masse de neige.
Les pistes sont belles.
Oui,
sont damées. On peut glisser.
Oui, on peut glisser aussi, mais la glissade, c'est pas les journées la plus rapide. Là. Donc hier, je regardais ça, là, c'est pas la journée la plus rapide.
Bon, on peut glisser, on peut faire du ski. Là. Oh, tous les sports de glisse, dans le fond.
Même
là.
Le snowpark, on l'a terminé la semaine dernière. On a un nouveau module. Ben, juste un exemple, on fait Lévis sur neige, un nouvel événement qu'on a ramené là, avec Boutique Five-O, là, qui est notre partenaire. Salomon, le représentant, voit ça, waouh, c'est donc bien le fun. En plus, on a des ambassadeurs. La petite Olivia Asselin de Pintan qui fait du snow cross et Sébastien Picard qui fait de la planche. On leur redonne 1000 $ par année. Fait que Salomon dit, tabarouine, on aime votre événement. Vous donnez une bourse à Sébastien. On va vous donner un module. Fait qu'ils nous ont donné un module de snow de 5000 $ là. Il est installé. Là. Fait que on redonne...
Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'implications sociales, de partenariats à Lévis et au centre de plein air également. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce qu'il manque un poste à combler, des bénévoles? De quoi auriez-vous de besoin? Comment la population peut vous aider?
Je pense qu'en fait, les gens font déjà beaucoup. Là. Si vous regardez sur notre Facebook, là, on est parti à zéro presque 8 ans, puis on a 8000 personnes qui nous suivent. Qui souvent font référence au centre, qui nous envoient des amis, qui nous envoient des gens. Hier, je suis là, puis la petite fille a 3 ans, dans Pentecôte, j'ose avec les parents, venez de où? Saint-Apollinaire. Ah oui, comment vous avez connu ça? Ben, c'est des amis qui nous ont dit, viens. L'autre jour, justement, la personne de Desjardins avec qui je travaille, son ami disait, ouais, ben, j'irais bien dans une plus grosse station, mais mon enfant va faire 4-5 descentes, ça va me coûter X plus X. Fait que là, il dit, ben, pourquoi tu vas pas au centre de plein air? Ben, c'est où, ça, centre de plein air? Fait que, tu sais, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter. Puis aussi, on est très, très axé sur la sécurité. Alors, ce qu'il faut surtout nous souhaiter aussi, c'est pas d'accident, puis que les gens, quand ils viennent, fassent ça de façon sécuritaire. C'est une petite montagne. Des fois, tu peux être tenté d'aller vite. On a notre patrouille, puis pour qu'ils sortent. Juste cette heure d'aller là, ce serait parfait.
Quand la relâche a été annulée?
Oui, le camp de la relâche, on l'a annulé. Je vous dirais qu'on a senti, puis on n'est pas les seuls, là, avec l'inflation puis avec les taux, là, des journées où tu envoies ton enfant à 40 puis 50 piastres par jour, ou même pour la semaine, que c'était moins populaire. Je regardais hier, il y a une station qui a fait un camp, ben c'est 95 $ par jour. Fait que je lui souhaite bonne chance à savoir s'il va être en mesure de le débuter. Puis on avait aussi une difficulté à trouver des moniteurs. Hein, la semaine de relâche du cégep n'est pas en même temps que la semaine du secondaire. Fait que là, on était comme limite au niveau des moniteurs, donc limite au niveau des inscriptions. Donc, même, on était déficitaire dans le fonctionnement. On préfère garder nos moniteurs, donner des cours privés, puis animer à montagne. Là.
Intéressant. Ça donne le goût d'aller glisser, Frédéric? En ski?
Oui, je ne parlerai pas de ma première formation que j'ai eue.
Non, je suis certain qu'on peut.
Il y a de quoi faire.
On monte dans un téléphérique.
On n'est pas tous des causes perdues.
Ah non, des grands-parents, beaucoup. Puis il faut voir les adultes, là, les gens d'Afrique du Nord, brésiliens, européens.
Puis, eux connaissent même pas la neige.
Hispanophone. Bon, juste en terminant, une petite anecdote. Oui. On connaît aussi que les gens n'ont pas nécessairement les mêmes billes de vie que les latinos. Là. Mettons, bon, l'année dernière, ça commençait. Nous, on ferme à 4 heures. Hein. Fait que là, il arrivait une dizaine vers 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures moins quart. Juste le temps de les habiller, de mettre l'équipement, sortir à l'extérieur. Il y avait le temps de faire 3-4 descentes. Ils prenaient 3-4 photos, ils rentraient en dedans. Fait que là, on lui disait, arrivez plus de bonheur, vous aurez plus de plaisir. La semaine d'après, il arrivait 3 heures moins quart. C'est vraiment très agréable de les voir.
Oui, bien, eux autres aussi, ils ont à s'habituer aussi au rythme hivernal, à ce que ça apporte de différence pour eux. Et,
ils arrivent.
Ah non, c'est vraiment
pas de mitaines, pas de sucre. On travaille avec le tremplin beaucoup aussi, qui viennent chez nous en activité. C'est un superbe organisme.
Oui, oui, oui. Le projet de francisation peut-être aussi.
Nous, on s'occupe plus des loisirs.
Plus des loisirs.
On laisse la francisation.
Ça en prend pour tous les goûts. Exactement. Merci d'être là. Merci de faire bouger tout ce beau monde-là et de veiller au grain depuis si longtemps. Je vous en souhaite encore autant d'années.
Merci beaucoup.
Sinon plus.
Merci. Ouais, puis merci à tout le monde, là. Tant les organismes, encore une fois, Desjardins, les autres partenaires, puis la population. Puis merci de l'accueil.
Ça me fait plaisir. Au plaisir de vous recevoir de nouveau.
Bonne journée. Je vais aller voir si les gens s'amusent d'impendre.
Oui, parfait. Allez-y, on vous libère. Après la pause, moi, je vais vous parler de comment gagner du temps sans vous oublier, ma belle gang. Donc, je vous envoie en pause et je vous reviens tout de suite après. Et c'est ce qui va conclure l'émission d'aujourd'hui. Restez là.
Chaque semaine, c'est 3 000$ qu'on vous offre au bingo. Avec 3 000$, tu peux t'acheter un billet d'avion et t'envoler pour Bakou en Azerbaïdjan.
Chico, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Azerbaïdjan?
Ah, oh, ça, c'est pas de mes affaires, ça. Mais avec 3 000$, tu vas pouvoir y aller. Bingo, tous les dimanches 15h.
La Vegas. 969FM.ca.
Vous êtes à l'écoute 96.9. L'alternative radio 96.9. Talk, rock and hip-hop.
96.8.
CJMD 96.9.
J'ai le goût de commencer cette petite chronique-là avec vous autres en vous posant une question. Je suis curieuse, moi, dans la vie, vous le savez, hein? Quelle méthode de gestion du temps avez-vous déjà essayé? Dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes sur le live Facebook ou si vous l'écoutez en rediffusion. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je vais vous répondre également. Il y a tout plein de méthodes, hein? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode Pomodoro, de la méthode Eisenhower, de la méthode Pareto, de la méthode GTD ou bien tout plein d'autres. Je veux savoir lesquelles vous connaissez, moi. Parce que probablement que toutes ces méthodes-là vous sont soit amenées à vous concentrer sur les tâches que vous aviez à faire, les plus importantes, hein, de vous amener une certaine hiérarchie. Il y en a peut-être d'autres qui vous ont amené sur les moments où votre énergie est au top et pas au top, hein, de jouer avec ce qui est là pour vous autres. Il y a peut-être des méthodes qui vous ont amené à vous minuter. Bref, il y a différentes méthodes et là, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne sont pas bonnes. C'est pas ça que je vous dis, mais pas en tout. Elles ont tous leurs bénéfices, mais aujourd'hui, je ne veux pas vous amener là-dessus. Parce que ça a déjà été mâchouillé, puis je ne veux pas aller là-dedans aujourd'hui. Parce que, aussi, ça se peut que vous les ayez essayées, ces méthodes-là, puis ce sont des méthodes éprouvées, là. Elles sont reconnues mondialement, là. C'est international, ça marche, ça fonctionne. Mais vous autres, vous n'avez peut-être pas eu les résultats escomptés. Peut-être que vous continuez à vous sentir submergé par les multiples responsabilités que vous avez. Peut-être que vous continuez à sentir de la pression, mais qui vient des autres, de votre entourage. Peut-être aussi que vous êtes envahi par une espèce de sentiment de culpabilité. Vous avez peut-être encore du mal à vous allouer du temps pour vous autres, sans vous sentir coupable. Vous avez peut-être encore l'impression même de négliger les autres parfois. Ouais. Peut-être que c'est le chaos dans ta vie présentement. Puis que tu te sens impuissante. T'en as essayé des affaires. Bref, toutes ces méthodes-là, ils n'ont rien changé, mais je vous le répète, ce sont d'excellentes méthodes, elles sont reconnues. J'en pratique quelques-unes. Je ne les fais pas toutes, mais j'en pratique quelques-unes. Je veux juste vous dire que je vous comprends si vous êtes dans cette situation-là. Parce que j'essaye des affaires. Moi, la première, j'expérimente tout plein de choses. Et aussi, avec toutes les années d'expérience que j'ai, que ce soit en coaching, que ce soit dans le milieu du travail ou dans lequel j'étais auparavant, avant d'être à mon compte, j'ai remarqué que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, ces affaires-là. Et que quand ça ne fonctionne pas, ces méthodes-là font augmenter notre stress. On se sent encore plus coupable. On a encore un sentiment plus grand d'impuissance. Donc, moi, là, en tant que coach, mon rôle, là, c'est de vous offrir un espace sécurisé où vous allez pouvoir explorer toutes vos émotions en lien avec la gestion du temps. Ouais. Vous allez pouvoir être influencé positivement sur vos sentiments. Mais surtout, je vais vous pousser à découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour vous autres. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas productif? Puis qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez devenir productif? Hein? Je vous dis, moi, la vie moderne, là, je la vis comme vous autres. Là, hein? Il y a de l'agitation partout. On a des obligations familiales. On a des obligations professionnelles. On a divers engagements peut-être sociaux qu'on fait peut-être du bénévolat aussi au travers de ça. Souvent, les clientes vont me dire, je suis dans une course effrénée contre la montre. Fait que c'est essentiel pour vous autres de vous trouver des moyens de gagner quelques précieuses minutes dans votre demi-journée, dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, et surtout, sans compromettre votre bien-être à vous autres. Parce que si vous autres, vous n'êtes pas bien, comment voulez-vous transmettre ce bien-être-là à votre entourage? Hein, c'est un peu un effet domino de tout ça. Alors, j'avais envie de vous partager trois astuces simples pour vous aider à sauver du temps sans vous oublier. D'accord? C'est ma méthode à moi. C'est la méthode Manon Poulin, j'ai envie de vous dire. La première chose, je vais vous inviter à capturer le moment présent, à capturer votre réalité. Le moment présent, il dure 168 heures dans une semaine. Hein? De 168 heures de moment présent. Qu'est-ce que tu fais? Prends-toi une photo. Prends-toi un papier puis un crayon griffonne. Fais-le à l'ordinateur sur Excel si tu veux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait sur Excel. Regarde pour chaque minute, chaque détail de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Analyse honnêtement où tu investis ton temps. Combien de temps tu dors? Combien de temps tu manges? N'oublie pas, il faut que tu te prépares aussi. Tu prends ta douche. Les affaires toutes basiques. Ton temps de transport pour aller au travail. Pense à tout, 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 à chaque seconde de ta vie. Mets ça sur un Excel. Mets ça sur une feuille de papier. Peut-être qu'une feuille, ça ne sera pas assez grand pour 168 heures. Mais faites-vous vraiment, pour chaque jour de la semaine, 24 heures. Hmm? Regardez attentivement c'est quoi. Cette visualisation-là, là, elle va vraiment vous permettre de voir concrètement votre situation actuelle. Et peut-être que vous allez être surpris qu'il y a des temps libres que vous n'avez pas réalisé qui étaient là, les temps libres. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu comme, j'ai envie de dire, une poule pas de tête. Vous courez un peu partout. Hein? C'est une métaphore. Vous courez un peu partout. Vous ne savez plus où vous dirigez. Alors ça, c'est ma première astuce. Ma deuxième astuce, si vous vous êtes fait un frame pour le premier, reprenez-le et imaginez votre semaine idéale. Vous n'avez aucune contrainte, aucune limite. Tout est possible. Vous avez toutes les ressources nécessaires à votre disposition. Qu'est-ce que vous faites pendant votre 168 heures de la semaine? Hein? Définissez vos priorités. C'est quoi que vous voudriez avoir? Ça serait quoi? Votre semaine de rêve ou vos 7 journées de rêve, vos journées idéales. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez tout ce temps-là pour vous? Que feriez-vous? C'est la deuxième astuce. Donc, c'est de voir où vous aimeriez être rendu dans votre vie. Donc, on part en un d'une situation actuelle, en deux, ce qu'on aimerait avoir. Donc, la majorité vont vous dire, ben là, il y a un écart, arrange-toi pour le combler. Hein? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais moi, justement, pour t'aider à savoir si la semaine de rêve que tu as imaginée fit vraiment avec toi, tout d'abord, hein, faut que tu aies une connaissance profonde de toi. Il faut que tu explores les méandres de ton être. Il faut que tu identifies vos valeurs, celles qui guident vos choix, qui vous poussent à agir. Mais aussi, pensez à vos contre-valeurs, ce qui entrave un peu votre épanouissement personnel, mais que d'un fois, vous agissez justement pour les éviter. Par exemple, si tu veux éviter le conflit, tu vas agir d'une façon. Juste pour amener de la conscience, j'ai envie de dire. Aussi, de connaître vos forces pour capitaliser sur celles-ci, pour maximiser votre efficacité, c'est important. Reconnaître également vos faiblesses, parce qu'on n'est pas bon dans tout, c'est pas vrai. Et oui, il y a des écoles de pensée qui disent, ben, t'as juste à les améliorer, puis à travailler sur tes faiblesses, puis tu vas devenir meilleur. J'y crois un petit peu moins à celle-là. Moi, je préfère miser sur vos forces, sur vos capacités, ce qui est là naturellement. Puis en combinant les trois astuces, ben vous créez un plan personnalisé qui va vous permettre de sauver du temps et de ne pas vous oublier. la photographie que ça va vous donner, ça va être votre réalité. C'est ça que vous allez devoir réaliser. Ça va devenir votre fondation. Puis une fondation, vous le savez, il faut que ce soit solide pour que le restant qu'on construit au-dessus, ça se tienne debout. Hein? Donc, en conclusion, si vous voulez sauver du temps sans vous oublier, vous devez avoir, en faire une quête, en faire votre quête personnelle. Donc, les trois astuces simples que je vous ai données aujourd'hui vont vous permettre de vous débloquer des moments précieux par vous-même. Ça va vous permettre de nourrir votre soi intérieur, votre vous, dans la profondeur, j'ai envie de dire. Et j'ai aussi envie de vous inviter. Si vous sentez que c'est le moment pour vous d'explorer davantage votre potentiel, d'amener votre vie à un autre niveau, de cultiver la positivité, mais de façon durable, à considérer de prendre vraiment des séances de coaching avec un coach en psychologie positive, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ça va vous permettre de vous débloquer. Ça va vous guider, ça va vous aider. Vous allez être plus dans ce que vous devez être et ça va vous amener à réaliser votre vie et ça va vous amener, comme je disais, à gagner du temps sans vous oublier. Ça va enlever votre culpabilité également. Sur ce, ma belle gang, on laisse place aux technopreneurs qui viennent tout juste d'entrer dans le studio. Moi, je vous dis bon bingo tantôt à 15h. On vous retrouve. Vous avez encore le temps d'aller acheter vos cartes. Vous pouvez passer à la station. Je reste à la station pour les prochaines minutes, jusqu'au bingo d'ailleurs. Fait que je peux vous vendre des cartes. Vous allez avoir un super deal. Et d'ici là, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Prenez soin de vous. On se retrouve tantôt dans le bingo à 15h.
C'est JMD 96.9 Lévis.
Ici BI, c'est Timo de Tactica.
Oui, on est les petits gars de Lévis, premièrement. Deuxièmement, on a toujours supporté la radio CJMD depuis ses tout débuts. Puis ceux qui ne savent pas, nous, on faisait partie des porte-paroles quand ça a été lancé en 2010, je crois. Là, on avait fait des entrevues à Lévis. Puis, tu sais, en tout cas, on était là au lancement depuis le tout début. On faisait de la promo pour cette radio-là. Donc, on y croit, CJMD. On est très, très fiers aussi d'avoir cette radio-là, rock et pop, dans notre ville. Là, puis on s'en est déjà souvent parlé. C'est pas pour être chauvin, mais c'est la seule radio qui fait jouer du hip-hop en continu comme ça à travers la province. Fait qu'on est très fiers et très contents que ça provienne du Southside QC, baby. C'est chez nous.
Vous écoutez CJMD 96.9.
Straight out of Lévis.
Dites UQAR.ca.
CJMD.
Honorez nos commanditaires.
Un jour, je serai le meilleur joueur. J'ai tant pris sans répit. Le bingo de CJMD, les dimanches après-midi. Le bingo à CJMD, une si belle activité. 3000 piastres à chaque semaine qu'on vous donne à CJMD. Le bingo!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.